Il y a un petit peu de quelques places vides, alors un peu partout. On va commencer par l'appel. Qu'est-ce qui nous fait l'appel aujourd'hui, Alexandrine?
Merci, monsieur le maire. Monsieur Renaud Claude.
Ben, il est là.
Madame Lombardi Michel.
Oui.
Monsieur Le Pennec Jean-Michel.
Présent.
Monsieur Charpie Patrick.
Présent.
Monsieur, Madame Le Villain Nathalie.
Présente.
Monsieur Borijan.
Oui.
Monsieur Coudray Jean.
Oui.
Madame Guinemer Claire.
Jean Borry est là ou pas?
On l'a vu. Oui, elle est là.
On l'a vu.
Bien, va arriver.
Madame Urojuguet Marie-Françoise.
Présent.
Monsieur Bénard Jacques. Monsieur Loiseau Guillaume. Madame Hervé Renoux Evelyne.
Elle a donné pouvoir à monsieur Le Pennec, mais je crois qu'elle doit nous rejoindre. Ça essaie de nous rejoindre parce qu'elle est dans un conseil d'administration d'école, collège. Donc c'est monsieur Le Pennec pour l'instant.
Monsieur Huchet Jacques. Madame Blanc Evelyne. Madame Redouté Michel. Monsieur Lognonnet François.
Absent, oui.
Madame Flo Véronique. Madame Dora Carrière Corinne.
Pouvoir à Madame Le Verger.
Madame Gauthier de Saint-Jean Isabelle.
Présente.
Madame Le Verger Sylvie.
Présente.
Madame Pinel Claire.
Présente.
Monsieur Allaire Yves.
Présente.
Madame Hervé Isabelle.
Présente.
Monsieur Delaveau Yann.
Pouvoir à Madame Guinemer, qui devrait pas tarder à arriver.
J'espère. Monsieur Nouvion Marc.
Présent.
Madame Descaisses Caroline.
Alors Descaisses. Pouvoir à Monsieur Charpie.
Madame Schwab Valérie.
Présent.
Monsieur Naclé Cerruti Pablo.
Pouvoir à Madame Lombardi. Voilà, Madame Guinemer est là, donc elle peut être mise présente. Et puis, elle a le pouvoir de Monsieur Delaveau. Madame Guinemer. Oui.
Monsieur Lemarié Romain.
Le marié.
Le marié, oui.
Bon, je pense qu'elle va arriver, je pense. Mais bon, elle va arriver pour l'instant.
Monsieur Guillard Kevin.
Présent.
Madame Le Talec Michel. Madame Hervé Christine.
Présent.
Monsieur Cid Pierre. Présent. Madame Kervenic Christine. Monsieur Perrin Stéphane.
Présent.
Monsieur Granchet Benjamin.
Pouvoir à Monsieur Cid.
Monsieur Lefebvre Dupuis Patrick.
Présent.
Madame Le Hérissé Marie-Christine.
Lefebvre avec un B, hein. Voilà. Donc, ouais. D'accord, elle va arriver. D'accord.
Monsieur Bessèche Serge. Monsieur Lurton Gilles.
Alors, monsieur Lurton donne pouvoir à madame Le Hérissé.
Madame Le Gagne Anne. Monsieur Belloir Nicolas.
Donne pouvoir à monsieur Lefebvre. Merci. Voilà, bon, bah écoutez, on va pouvoir commencer notre séance. Premier point, c'est évidemment le compte-rendu sur les décisions du Code général des collectivités territoriales. Oui, monsieur Cid.
Une simple précision, ça concerne la décision 035, page 22, rang 5. C'est un marché pour la fourniture et la mise en place de systèmes de vidéoprotection. Donc le montant est indiqué de la manière suivante. Investissement la première année, 280 euros hors taxes en fonctionnement les autres années. Donc on suppose qu'ils vont faire l'installation. Quel est le montant? Voilà, juste si ça peut être précisé maintenant ou à la prochaine séance. Peu
pas,
importe,
oui, à la prochaine séance parce si qu'on n'est pas rentré dedans, mais on note votre remarque. Merci. Donc là, ça y est, on est bon, il n'y a pas d'autres questions. Ben, je vous propose de passer directement à la délibération numéro 1. Alors, il y a une série de délibérations, il doit y en avoir au total 6, qui portent sur des demandes de subvention auprès du fonds de soutien des investissements locaux, le FSIL. Alors, en fait, vous savez, ce sont des sommes qui ont été mises à disposition des collectivités par l'État pour relancer les investissements publics. Donc, je vais passer la parole à M. Le Pennec qui va nous présenter. On a donc présenté 6 dossiers. On a évidemment échangé avec la sous-préfecture pour être sûr que ces différents dossiers sont éligibles au FSIL. Voilà.
Merci, Monsieur Le Pennec. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est la deuxième année qu'il y a ce fonds de soutien au niveau des investissements locaux. Hein, rappelez simplement que le taux de subvention est au maximum de 80% et que la participation minimale du maître d'ouvrage est de 30%. Et donc, dans les projets éligibles, ça concerne la rénovation thermique, les énergies renouvelables, tout ce qui concerne la mobilité, et les équipements et tout ce qui concerne l'accessibilité. Alors effectivement, il y a 6 délibérations. Je vais passer en revue, si vous en êtes d'accord, les six.
Et je vous propose de voter en bloc, sauf s'il y a un problème sur l'un ou l'autre.
Un point que je tenais à préciser par rapport aux sommes qui sont inscrites en termes de budget, ce ne sont pas les mêmes sommes que ce que nous avons vu en commission, tout simplement parce que dans la délibération ne doit figurer que le montant éligible au niveau de la subvention, alors que dans le cadre de la commission figurait l'intégralité des travaux concernés par cela. Alors la première concerne donc l'accessibilité des bâtiments recevant du public dans le cadre de l'ADAP, qui est sur 9 ans, et donc ça concerne un montant de 525 308 euros pour le budget principal et 8 210 euros pour le port, sachant que ces travaux se dérouleront de juillet à décembre. La deuxième concerne l'aménagement du boulevard Chateaubriand et là concerne spécifiquement la mise en place d'une double piste cyclable qui sera réalisée dans le premier semestre et au budget il y a une somme de 120 833 euros. La troisième demande concerne la réfection des menuiseries des écoles et spécifiquement l'isolation thermique. C'est pour la Gentillerie à hauteur de 141 667 euros. Travaux qui seront réalisés en juillet et en août. La quatrième demande concerne la sécurisation des écoles, le plan de sécurité et notamment la sécurisation des accès pour un montant de 83 334 euros. Travaux qui seront également réalisés entre juillet et décembre. La cinquième demande concerne l'aménagement de la rue du Commandant Lherminier pour la mise en place d'une double piste cyclable. Le budget est de 150 000 euros et ces travaux auront lieu dans le second semestre 2017. Et enfin, l'aménagement de la rue Jacquerie, c'est l'aménagement des trottoirs et la sécurité des passages vélos pour un montant de 75 000 euros et travaux qui seront réalisés dans le second semestre 2017, ce qui représente un total en termes budgétaires d'une demande pour les travaux de 1 154 300 euros. Voilà, monsieur le maire.
Voilà, 1 154 000. Vous vous souvenez, on avait déjà sollicité une intervention de ce fonds-là sur les talards et on a obtenu sur les talards 400 000 euros. Voilà. Donc je sais qu'il y a des disponibilités encore, que le sous-préfet s'inquiétait de ne pas avoir de sollicitation et de demande suffisante. Donc il faut évidemment se dépêcher, pas laisser passer l'opportunité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions globalement ou sur un point spécifique? Alors, Monsieur Cid, il y a d'autres questions aussi, non? Monsieur Cid, oui.
Non, il n'y a pas de questions, c'est juste un point spécifique. Concernant la rue Jacquerie, on avait parlé avec Monsieur l'adjoint responsable des travaux. La partie ouest, le côté ouest de cette rue est assez dangereux pour les riverains, même s'ils sont très peu nombreux. Et comme les travaux auront lieu au second semestre, je demandais s'il était possible d'imaginer une protection ou un système temporaire pour protéger le long du mur, là, les riverains de la rue Jacquerie.
Bon, moi, je ne connais pas trop le sujet. Et Jacques, oui.
Oui, la meilleure sécurisation pour les riverains, c'est quand même de traverser au droit de leur propriété et d'aller sur le trottoir qui se trouve en face.
Voilà. Bon, on garde. Merci. D'autres observations, non ? Bien, ben, je vous propose de voter globalement sur les 6, si vous n'y voyez pas de... Est-ce qu'il y a des votes contre ou des oppositions ? J'espère que non. Donc les 6 sont votés à l'unanimité. Voilà. Passer à la 7e, la demande de subvention auprès de la région Bretagne pour le Forum des Arts, Monsieur Coudray.
Oui, mais merci Monsieur le maire, vous avez tout dit. Effectivement, nous avons un service financier qui fonctionne très bien et qui s'est aperçu que nous pouvions solliciter pour le Forum des Arts qui aura lieu cette année le 6, 7 et 8 mai, nous pouvions solliciter la région pour une subvention et donc c'est ce que nous faisons ce soir par la présente délibération.
Voilà. Des questions ? Non ? Le Forum des Arts n'est pas contesté, je pense. Personne ne vote contre ni s'abstient. Je regarde. Non, merci. Le procès-verbal de mise à disposition des équipements et biens mobiliers liés au transfert de la compétence aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Bon, vous savez qu'on est en train de transférer cette compétence vers l'agglomération. Et il y a donc deux aires d'accueil qui sont concernées, celle de Cancale et celle de Saint-Malo. Donc on a pris des délibérations côté SMA, Saint-Malo Aglo. Maintenant, il faut évidemment l'accord de la ville cédante ou de la commune cédante. Donc, Monsieur Loiseau, à vous.
Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, comme vous l'avez indiqué, la loi NOTRe prescrit à partir du 1er janvier 2017 le transfert des compétences de communes vers les communautés d'agglomération. C'est le cas de la compétence aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Cette compétence est une compétence obligatoire des agglomérations depuis le 1er janvier 2017. Et à ce titre, la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage Malouine a été transférée à Saint-Malo Agglomération le 1er janvier 2017. Nous devons donc délibérer pour constater ce transfert dans lequel sont organisés les droits et obligations de chacun.
Merci, M. Loiseau. Alors, vous savez tous, hein, je vous rappelle quand même que tout ça se fait toujours dans la neutralité financière. On fait ce qu'on appelle une CLEC, qui est en fait une commission à l'agglomération qui permet d'évaluer en fait la diminution des dépenses, en l'occurrence pour la ville de Saint-Malo, et l'augmentation des dépenses pour Saint-Malo Agglomération, qui reprend la compétence donc et toutes les obligations y afférentes. Donc ça doit s'équilibrer, hein, on diminue du coup la dotation de la communauté à la ville, de la même somme, donc neutralité financière. Question là-dessus ? Non ? Oui, Monsieur Perrin ?
Non, juste une observation, Monsieur le maire, comme ça sera la dernière fois que nous aurons l'occasion dans cette enceinte au moins d'évoquer le sujet. Peut-être pour la clarté des débats et pour que le propos soit clair pour ceux qui nous écoutent, on n'est pas sur le transfert... On est sur le transfert de biens liés à ce transfert de compétences, mais on ne règle pas toute la question. Et moi, je réitère ce que j'avais dit en conseil communautaire, c'est-à-dire que pour l'accueil des grands passages, qui est ce qui continue de poser problème, on a certes progressé, et c'est pour ça que je m'étais exprimé favorablement sur cette prise de compétences avec un travail au sein de l'intercommunalité pour qu'on ait des aires qui certes sont tournantes, mais qui existent, ce qui n'était pas le cas avant, mais le souhait reste quand même, en tout cas, qu'on ait quelque chose qui soit pérenne, qui soit prévu et qui soit bien identifié, parce que ça contribuerait à apaiser un peu les relations, dont on sait qu'elles sont toujours compliquées, entre les communes, parce que même si la compétence est transférée, de fait, c'est toujours les maires qui sont sollicités, hein, on le sait très bien, et donc on n'est pas au bout du sujet. Mais enfin, en tout cas, on avance positivement.
Il s'agit là du transfert de deux aires, très précisément. En fait, pour Saint-Malo, c'est l'aire de la montagne Saint-Joseph. Puis il y a un équivalent du côté de Cancale, donc il s'agit de ça. Et ce sont plutôt, effectivement, des aires de gens du voyage qui sont assez, pas sédentarisées, mais qui sont installées de façon permanente avec des enfants scolarisés. Et tout. Alors, il y a la question, après, des grands passages. Les grands passages, ben, ce sont... ce sont les groupes qui font 50, 100 caravanes, voire plus, et qui viennent alors pour des périodes limitées de 15 jours, 3 semaines. Et là, on a des solutions qui ne sont pas des solutions pérennes. Aujourd'hui, on fait face comme on peut sans avoir trouvé de solution pérenne. Là, on y travaille pour l'instant. Elle est d'ailleurs en contact avec la sous-préfecture aussi sur... mais c'est un sujet d'agglomération, hein, donc pour mettre à disposition un terrain de 5 hectares, grosso modo, bien situé sur l'agglomération et qui soit susceptible aussi d'être utilisé. Parce que si c'est un endroit qui n'est pas... qui fait pas l'accord des futurs utilisateurs, on n'aura pas avancé. Donc c'est en cours, et c'est en cours avec toutes les difficultés que ça pose, par exemple en termes d'utilisation d'espace agricole. Donc on a évidemment de la part des professions agricoles aussi un intérêt pour savoir si ce sont des terrains qui sont susceptibles d'être utilisés pour l'agriculture ou pas. Enfin bon, imagine toutes ces discussions. Elles sont en cours et conduites par la Direction Générale des Services. Et la dernière réunion a dû avoir lieu il y a moins de 8 jours à la sous-préfecture, justement, pour mettre autour de la table toutes les parties prenantes. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions non plus. Bon, alors même chose, mais cette fois-ci pour le transfert de la compétence promotion du tourisme et donc la question de l'office de tourisme. Alors ça, c'est M. Charpie qui prend la main. C'est la 9, M. Charpie.
Donc là, il s'agit, comme l'a dit M. le maire, de... la gestion du transfert des biens équipements. Donc, il n'y a pas grand-chose à rappeler. Vous avez le procès-verbal de la mise à disposition qui reprend l'ensemble des biens concernés. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail hein, de toutes ces, la liste de tous ces éléments. Il y a le hall, la banque, le back-office, les bureaux, etc., etc. Et le montant global... les informations comptables et budgétaires reprennent un montant de 1 576 325. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter.
Non, non. Mais voilà. Donc là aussi, ça a donné lieu à une claque, donc à un calcul en entrée-sortie des dépenses pour les deux collectivités pour assurer la neutralité, comme d'habitude, évidemment. C'était les enjeux financiers étaient un petit peu plus forts que sur le sujet précédent. On a un office de tourisme neuf, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Personne ne s'oppose, il s'abstient ? Merci. On va garantir des emprunts, Madame Redoutée, comme à tous les conseils municipaux. Et là, il y en a 3 à garantir. Si vous voulez, on passe en revue les 3 et puis on votera sur les 3 sauf opposition.
Donc le premier, il s'agit de la garantie d'un emprunt de 696 892 euros pour Émeraude Habitation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, l'acquisition en VFA de 12 logements situés 51 rue Godard au Clos des Régatiers. Il s'agit de l'acquisition par l'OP Émeraude Habitation de 12 logements dans le bâtiment E du Clos des Régatiers de Bâtie-Armor. Il s'agit de 12 logements locatifs sociaux en démembrement de propriétés du type Perle. Pour le projet de 76 logements du Clos des Régatiers, on a environ 15 logements LLS en démembrement et 10 logements locatifs en VFA et environ 50 logements en accession libre. Le deuxième, c'est la garantie d'un emprunt de 706 733 euros pour la SAHLM Larance auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la construction de 5 logements situés résidence Le Tertre de Beaulieu, impasse du Tertre de Beaulieu. Il s'agit de 5 maisons passives réalisées sur un ancien espace vert sur le secteur du Tertre de Beaulieu. La construction des 5 maisons devrait démarrer prochainement pour une livraison au second semestre 2018. Enfin, la garantie d'un emprunt de 678 906 euros pour Émeraude Habitation auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'acquisition en VFA de 12 logements situés Hôtel des Îles, 2 et 5 rue André des Îles. Il s'agit des 12 logements acquis par l'OPH Émeraude Habitation auprès de Perle dans le bâtiment de l'ancien Hôtel des Îles. Il s'agit de 12 logements locatifs sociaux en démembrement de propriété pour une période de 15 ans. Donc il vous est demandé de bien vouloir adopter les projets de délibération.
Voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Monsieur Sitt, oui.
Oui, juste une explication de vote. On a déjà expliqué que Le démembrement, même si on nous a dit que c'était normal, etc., que c'est comme ça que ça fonctionnait, est une opération que nous jugeons extrêmement coûteuse pour les HLM dans les conditions qui ont déjà été dites ici, et je ne vais pas les reprendre. Pour cette raison et pour cette raison uniquement, nous abstiendrons sur les deux délibérations qui font référence à qui sont concernées par ce démembrement. D'autre part, concernant la première des délibérations, parce que concernant l'hôtel des îles, on pouvait s'en douter, mais concernant la première délibération, à moins que nous ayons mal lu, on ne voit pas la notion de démembrement apparaître.
Il n'y a pas de démembrement.
Ah, c'est ce qui a été dit par madame.
J'ai cru. Alors, je me trompe peut-être. Alors, sur la 10.
Oui. C'est peut-être sur une erreur de plume ou d'explication, peu importe, mais. Bon, quelqu'un en votera pour.
Non, pour moi, il n'y a pas de démembrement sur la 10.
Ça porte uniquement sur l'hôtel des îles en ce cas.
C'est l'acquisition en VFA qui se fait non, de façon VFA, classique.
Ça peut être en VFA classique, sans en VFA démembrement. Les deux sont possibles. Ok. Donc.
Sans réserve d'usufruit, comme sur la 12, sur laquelle voilà. Vous avez toujours manifesté votre opposition.
Une opposition ferme, mais comme il s'agit d'une garantie d'emploi...
Et définitive, non, c'est ça
assez, oui, surtout d'accord. Quand on travaille avec Perle.
D'accord. Donc on va voter par paquet 2 et puis 1, alors. Sur les deux premières, tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. Et sur la 12, alors qui s'oppose ? S'abstient. Donc il y a 3 abstentions là. Voilà, merci. La 13, Monsieur Le Pennec va nous vendre un camion frigorifique, un tractopelle, une nacelle, un camion Ben. C'est ça ?
C'est tout à fait ça, sachant que lorsque l'on vend un bien, désormais au niveau de la ville de Saint-Laurent, on a recours à un prestataire pour la vente en ligne, et toutes les ventes d'un montant supérieur à 4600 euros doivent être autorisées par le Conseil. Là aussi, par rapport à la Commission, il y a eu 2 véhicules de rajouter, parce qu'on avait mis 2 véhicules en vente respectivement à 200 et 800 euros, et les enchères sont montées à 4000 et 5000 euros, raison pour laquelle on a rajouté 2 véhicules supplémentaires, donc qui seront mis aux enchères prochainement.
Voilà. Personne ne s'oppose à ce qu'on procède de la sorte. Donc, personne ne s'oppose ni s'abstient. Merci. Passer à la 14, délibération importante sur la signature de la charte d'éco-quartier sur le caserne de Lorette. Là, on enclenche, on continue, enfin, on poursuit sur un dossier qui va nous amener à sans doute nous en reparler dans cette enceinte de temps en temps et assez souvent pendant un certain nombre, je pense, d'années, parce que c'est un aménagement qui va s'étaler sur plusieurs années. Cette charte éco-quartier va manifester la volonté de la ville d'être tout à fait en avant, un éclaireur en matière de structuration d'éco-quartier. Alors avec des concepts d'ailleurs qui renvoient à une autre délibération un peu plus tard, qui est celle sur les smart grids, qui est à la délibération numéro 25. J'aurais volontiers fait le lien entre les deux, de façon à ce qu'on traite la 14 et la 25, puis après on reprend le cours de la 15, la 16, si vous en êtes d'accord. Sûrement Madame Le Talec va être d'accord. Voilà, donc Monsieur Charpie.
Bien, donc je rappelle que la ville a engagé la maîtrise foncière de la caserne de Lorette auprès de la SOVAFIM et qu'en juin 2016, nous avions délibéré sur les objectifs et les modalités de concertation publique en vue de la création d'une zone d'aménagement concertée. Et l'un des objectifs que nous avions mis en avant dans cette phase-là, c'était de créer un écoquartier. Et donc, pour mettre en place cet écoquartier, on va s'inscrire dans le cadre d'une labellisation qui a été créée par le ministère du Logement et du Développement Durable. Donc c'est un label qui existe depuis 2009, qui en est à sa 5e année de fonctionnement et qui propose maintenant 4 étapes pour accréditer un projet. Donc là on va rentrer dans la première étape qui consiste à signer ce document qui va nous engager dans cette démarche et permettre d'accepter les 20 engagements de la labellisation. Ensuite il y aura 3 autres étapes qui vont se dérouler au fur et à mesure du projet, l'une qui sera pendant le chantier et qui permettra de soumettre l'aménagement à une expertise d'une commission régionale. Puis ensuite, lorsque nous arriverons à la livraison de l'écoquartier, on soumettra à nouveau une expertise pour déterminer la conformité avec les engagements
auprès d'une commission, cette fois-ci nationale. Et enfin, 3 ans après l'obtention de l'étape 3, nous retournerons à nouveau devant une commission nationale pour mesurer la tenue de l'ensemble de nos engagements pris pendant cette période. Et ceci après une évaluation qui associera les habitants et les usagers de ce territoire nouveau. Voilà, donc aujourd'hui, on vous demande de nous permettre de signer cette convention.
On va mettre ça au vote ou au débat, tout au moins. Qu'est-ce qui veut intervenir? Madame Le Talec, je ne m'étais pas trompé. Madame Hervé aussi, oui. Madame Le Talec, à vous. Oui.
Merci, monsieur le maire, de donner la parole. Oui, ça fonctionne. Un sujet, vous ne vous êtes pas trompé, hein, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant qu'écologiste. Je ne peux que me féliciter du fait que vous souhaitiez, on en avait parlé en commission, en faire une vitrine d'excellence environnementale. Je voudrais faire quelques remarques qui m'ont été inspirées par la liste des ambitions que l'on trouve dans l'annexe que je pense tout le monde a lu avec le plus grand intérêt. Dans ces ambitions, j'en ai relevé 3. Sur lesquels je voudrais dire quelques mots. L'ambition numéro 3, relever les défis de la rénovation urbaine. Donc ce quartier permettra, j'imagine, je suppose, j'espère, d'expérimenter de nouvelles formes d'habitat, notamment, et vous savez que c'est un peu ma marotte, les habitats participatifs, intergénérationnels, etc. Et on sait que ces projets sont longs, très longs à mettre en œuvre, et que... il conviendrait peut-être très en amont de solliciter éventuellement des habitants pour préparer ce type de projet. Parce que ça bute souvent l'échec de ces projets, c'est souvent le fait qu'ils n'ont pas été préparés suffisamment en amont. Autre ambition, passer des écoquartiers prototypes à des écoquartiers accessibles à tous. Alors on voit bien là, le souci d'arrêter de... vous en aviez parlé un petit peu précédemment, de faire des quartiers bobos, mais de faire profiter à tout le monde de l'excellence environnementale. Et grâce effectivement à l'implication des bailleurs sociaux, ça devrait être possible. Et enfin, une dernière remarque. Qui concerne la biodiversité et la nature en ville. C'est un sujet un petit peu sensible dans notre ville en ce moment. Et on peut peut-être supposer que dans cet écoquartier, on veillera tout particulièrement à maintenir suffisamment d'espaces verts pour donner satisfaction aux habitants et leur permettre de bien vivre et de bien respirer. Enfin, tout ça ne pourra se faire évidemment... Et vous l'avez dit, qu'avec la participation effective et très en amont aussi des citoyens à ce projet. Mais c'est un beau projet que les écologistes suivront avec intérêt et dont on souhaite qu'il soit une réussite pour notre ville.
Je vais peut-être laisser Madame Hervé ajouter ses questions, puis on va faire une réponse. Oui, Madame Hervé, à vous.
Oui, alors moi, c'est pas une question. Je souscris totalement à ce qu'a dit Michel Le Talec. Non, je me fais l'écho ce soir, là, de nuisances que vivent actuellement les riverains de ce quartier suite à des entraînements des CRS à l'intérieur de la zone. Et j'ai donc eu écho par différents riverains de ces difficultés. Donc nuisances au niveau du bruit et puis de fumigène, de fumée, etc. Voilà. Les CRS s'entraînent sur le site.
Alors, je ne sais pas si ce sont des CRS ou des gendarmes ou des écoles. Mais ça, bon, on note ce que vous dites. Là, on avait déjà eu une information... sur ce sujet, donc je me tourne vers Monsieur Loiseau, qui a bien noté, Guillaume, qui a bien noté, on se renseignera, on verra, effectivement, avec ceux qui organisent des entraînements, donc très bien. Sur les points que vous évoquiez, Madame Le Talec, alors je vais peut-être les reprendre un peu. Bon, vous avez parlé de participation, vous avez parlé de mixité sociale, vous avez parlé de vert, enfin, il faut qu'il y ait du vert. Vous êtes d'accord pour le vert? Donc, sur tous ces aspects-là, je pense qu'on va, être complètement d'accord pour partager ces objectifs-là. La mixité sociale est prévue. Avoir un éco-quartier, c'est aussi avoir un quartier qui respire. Ce qu'il faudra quand même, ça, il faut se le dire tout de suite, c'est accepter des formes de densification de l'habitat. Ce qu'on ne peut pas vouloir, mais ça, je suis sûr que ce n'est pas votre cas, une chose et son inverse, c'est-à-dire à la fois augmenter les espaces de respiration, puis en même temps ne pas grignoter sur les terres agricoles, parce que si on ne construit pas dans les villes un peu plus denses, il va falloir aller trouver de la place ailleurs. Et vous savez, on est à 700, un peu plus de 700 logements autorisés l'année dernière. On était à 600, un petit peu plus de 600 l'année d'avant. Et on envisage sur cet éco-quartier aux alentours de 450 logements. Alors ça dépendra des équipements publics, comment tout ça va se... Mais c'est un peu une projection qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que c'est pas une année de programmation de construction de logements pour la ville de Saint-Malo. Donc il faudra trouver ces équilibres-là. Alors sur le fait d'anticiper, pour ça d'ailleurs qu'on a déjà choisi une équipe d'architectes et de spécialistes des questions environnementales pour commencer pour travailler sur le sujet et nous préparer à des échanges avec les différents partenaires. Les partenaires, ce sera les bailleurs sociaux et d'autres qui seront amenés à intervenir sur ce périmètre-là. Donc on a bien enregistré tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui, monsieur Lefebvre. Oui,
concernant l'engagement 19, qui est la préservation des ressources en eau et faire des économies, j'avais indiqué en commission qu'il faudrait aussi qu'on fasse des réseaux intelligents, le smart grid, y compris pour l'eau et pas la seule électricité.
Alors donc, nous allons passer à la 25, juste derrière, comme ça, vous me tendez la perche, j'allais dire. Est-ce qu'on vote déjà quand même celle-ci? On va pas passer à la 25 après. Personne ne s'oppose ni s'abstient. Merci. Je vous propose d'aller à la 25, justement. La 25, donc vous voyez, adhésion de la ville à l'association SMILE. Alors, donc, on va nous dire de quoi il s'agit. Patrick Charpie va nous expliquer.
Alors, pour bien comprendre, il faut d'abord se rappeler que les régions Bretagne et Pays de Loire ont été désignées comme lauréates d'un appel à projet pour le déploiement à grande échelle des réseaux électriques intelligents, appelés autrement Smart Grids. Il y a trois régions en France qui ont été retenues. Outre donc Bretagne-Pays-Loire, il y a le Nord et la région PACA. Donc c'est vraiment quand même très ciblé sur trois régions uniquement. Alors pour assurer la mise en œuvre de ce projet, il a été créé en décembre 2016 une association, SMILE, donc S-M-I-L-E, qui est placée sous la coprésidence des deux régions. Alors elle sera articulée autour de six collèges, dont l'un est constitué par les collectivités territoriales. Donc l'avantage d'être présent dans cette association, c'est que ça nous permettra d'avoir accès aux données et ainsi qu'à l'avancement des différents travaux de SMILE et donc d'être au cœur du dispositif d'information qui nous permettra d'intégrer dans nos projets à nous la possibilité d'obtenir en particulier des subventions qui seront fléchées par l'association SMILE. Donc nous avons prévu d'adhérer à cette association. Nous pourrons prendre part aux activités au développement de l'association en collaborant à ces activités, mais également, ce qui est une proposition qui a été faite à la suite de la demande de monsieur le maire, de participer au conseil d'administration en tant qu'observateur invité par la présidence. Il faut préciser que comme il n'y avait que deux postes possibles au conseil d'administration, on n'a pas pu être membre du conseil, mais qu'on a cette dérogation pour pouvoir en fait participer à ces séances.
Voilà. J'ajoute quelques précisions peut-être. Il n'y avait que deux régions à l'origine, c'était PACA et Nord. Le regroupement des deux autres régions, Pays de Loire et Bretagne, est venu plus tard, est venu un peu après, et on a été à ce moment-là un peu dans l'action pour essayer de contribuer à ce que notre région soit embarquée. Parce qu'effectivement, il y a derrière beaucoup de ressources. Ce sont des ressources, alors financières, subventions, autres, mais c'est beaucoup des ressources de compétences. de tous ceux qui œuvrent aujourd'hui dans les domaines de l'eau, de l'énergie, des télécoms, justement sur tous ces concepts nouveaux qui commencent à être mis en œuvre petitement en France, mais qui sont déjà mis en œuvre dans certains autres pays. Donc c'est aussi une façon de se retrouver dans ce cercle-là et donc d'être à la pointe de la connaissance de ce qui peut se faire et donc se donner la possibilité aussi d'en capter tous les avantages et les fruits, quoi. C'est l'objectif. Donc je reviens à Lorette. Lorette, c'est un quartier qui évidemment s'inscrira dans cette il n'y aura pas que Lorette au passage. Pensez par exemple que autour du port, autour de la nouvelle concession du port, pour laquelle il y a des discussions en cours, on travaille sur des cahiers des charges du côté de la région, la ville participant d'ailleurs à ces réflexions-là aussi, on intégrera aussi ces notions-là, ce qui permet de rentrer dans le cœur de ville, puisque le port est au milieu de la ville, donc important à mes yeux cette délibération. Monsieur Lefebvre.
Je veux compléter puisque c'est l'objet là.
Ouais.
Non, c'est vrai qu'il y a actuellement les zones comme le Nord qui travaillent depuis longtemps sur les laboratoires de réseaux intelligents, notamment l'Université de Lille. Mmh. Ça peut être intéressant que l'Université de technologie de Saint-Malo se rapproche à un certain moment pour acquérir un certain savoir là-dedans et qu'il y a des choses à gagner. Hein. Et effectivement, les smart grids concernent plein de réseaux et l'électricité étant un élément de support de l'information dans ces réseaux en général.
On a là. Vous avez raison, hein, on verra tout ça, comment ça se décline. Les universités, je sais que sur Aix-Marseille, ça travaille là-dessus aussi, Nice aussi, le Nord. Ici, on a un département de télécom qui est assez reconnu. Enfin, on verra comment tout ça peut s'articuler. Bon, il y aura sans doute à mettre à contribution des établissements d'enseignement supérieur du niveau, le cran au-dessus de l'IUT, mais tout ça peut. Hein. D'autres questions ? Oui, monsieur Perrin.
Juste un complément à mon tour, parce que c'est vrai que ça paraît un peu technique pour le grand public et la formulation même, on s'interroge d'ailleurs à la région sur le terme smart grids, parce que ça parle aux techniciens, ça parle aux spécialistes, mais ça ne parle pas au grand public. Il y a quand même un intérêt aussi à ce projet-là, répond à un problème qui est breton, pour le coup, qui est celui de notre dépendance énergétique et de la fragilité de notre approvisionnement énergétique. On le sait, il y a beaucoup de campagnes et la ville de Saint-Malo s'y est associée pour réduire la consommation d'électricité. Ces réseaux intelligents, ils sont aussi destinés à bien gérer la consommation électrique pour faire en sorte que cette fragilité-là qui est la nôtre aujourd'hui n'en soit plus une demain et que lorsqu'il y aura d'autres sources d'approvisionnement qui sont des sources un peu moins constantes. On sait que l'énergie éolienne, par exemple, est une source d'approvisionnement moins constante que des sources à base d'énergie fossile, mais ça nous permet aussi de mieux gérer et de mieux faire l'adéquation entre la consommation et la production. Donc, c'est un sujet qui concerne le grand public, même si il a des ors très techniques et qui nous affecte très directement, et on le voit hein, quand on approche la période hivernale et qu'on a toujours des questionnements sur la capacité de la Bretagne à assurer sa viabilité en termes électriques, c'est aussi une réponse à cette problématique-là. Donc ça nous concerne tous.
Oui, mais c'est le cœur du sujet, c'est l'énergie qui est le cœur du sujet. Il n'y a pas que la Bretagne, hein. La région PACA a été investie très rapidement dans ce domaine parce qu'il y a aussi des tensions. En PACA, il n'y a pas que sur la Bretagne, mais vous avez raison, ça fait partie évidemment c'est au cœur du sujet. Voilà, donc pas d'autres questions, pas d'opposition ni d'abstention, j'imagine, sur un dossier comme ça. Très bien, retourne à la délibération numéro 15. Monsieur Charpie, on nous parle du clos poussé pour les deux délibérations suivantes.
Donc la première, c'est d'abord de vous rappeler qu'en 1995, mars 1995, avait été approuvé le premier programme d'aménagement d'ensemble du Clos Poussé, qui prévoyait une zone d'aménagement pour des logements individuels et un équipement public. Aujourd'hui, nous avons deux évolutions à prendre en compte pour ce PAE. La première, c'est la nécessité de créer un bassin de stockage des eaux pluviales à l'angle de la rue du Clos Poussé et de la rue du Commandant Lherminier. Et d'autre part, c'est l'ouverture à l'urbanisation en 2007 des terrains qui appartiennent à la succession Rio. Donc le but, c'est aujourd'hui sa délibération, c'est de réactualiser le bilan du PAE, donc vous l'avez en annexe, en intégrant ces deux nouvelles données. Et donc, une fois qu'on a approuvé ce bilan, ça permettra de réactualiser le montant des participations qui seront à la charge des constructeurs à venir.
Voilà. Question ? Non ? Eh bien, je propose de voter. Pas d'opposition ni d'abstention ? Merci. On va passer à la suivante, à la 16. Toujours Claude Pousset.
Alors en fait, c'est un exercice pratique d'application de ce qu'on vient de voter. C'est donc pour le fait que la SACIB va déposer un dossier de demande d'autorisation en vue de réaliser un ensemble immobilier sur le secteur de Clos Pousset. Donc conformément aux modalités de financement du PAE, approuvé en 95 et réactualisé il y a quelques minutes, on a donc pu calculer le montant de participation qui sera à la charge de ce lotisseur et qui est donc de 584 500 euros. Et donc, c'est un calcul qui est fait avec un montant au mètre carré de surface planchée. Et donc, je rappelle que ce qui est prévu en aménagement, c'est 27 maisons groupées, 5 lots libres, 40 logements collectifs. Ça, c'est pour la parcelle A. Et la parcelle B, 50 logements collectifs. Et donc, c'est l'application d'un prix au mètre carré de plancher aux surfaces qui sont prévues par le constructeur qui permettent d'arriver à ce total de 584 500 euros.
Oui, Madame Le Hérissé.
Oui, Monsieur le maire, une précision. Je voterai pour au nom de Monsieur Lurton et pour ma part, je ne prendrai pas part au vote.
D'accord. D'autres questions ? Non ? Donc, à part Madame Le Hérissé qui ne vote pas, est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? D'accord. Donc, à l'unanimité, moi, Madame Le Hérissé qui ne vote pas. Merci. Passer à la 17, ça concerne le transfert de l'ENSM, l'École nationale supérieure maritime, sur le campus universitaire de la ZAC de la Croix-des-Îles. Alors, bon, cette délibération fait écho à une délibération qui a été prise par Saint-Malo Agglomération la semaine dernière, le 23 mars. Et donc, je vais vous réinfliger ceux qui étaient présents déjà. L'exposé du sujet, je le fais quand même de façon assez concise et j'attendrai évidemment vos questions. Bon, vous savez que le EDSM est installé intramuros. L'UNSM poursuit son projet d'établissement qui avait été validé par un conseil d'administration qui a eu lieu en 2013. Et donc l'école de Saint-Malo est spécialisée dans l'initiation professionnelle et continue des officiers mécaniciens et dans les formations relatives à la sécurité maritime au travers d'un établissement annexe qui s'appelle le CESAM, vous voyez où il se situe, sur le front du bassin Bouvet. Alors là, dans un premier temps, il s'agit de l'établissement d'enseignement de l'ENSM hors sécurité maritime. Alors, cet établissement est l'objet cycliquement de discussions sur son maintien. C'est pas nouveau. On a connu ça déjà par le passé à plusieurs reprises. Il est un mystère pour personne que les financeurs de la formation de ces formations-là et de ces écoles pour une grande part les armateurs et pour une part l'État. Alors, au passage, vous avez à l'esprit que les écoles nationales supérieures de la marine ne dépendent pas d'éducation nationale, mais dépendent du ministère des Transports. Donc là, les modes de financement sont différents. Bon, on sait que un certain nombre de financeurs souhaiteraient que le nombre d'écoles soit réduit, puisque aujourd'hui, le nombre d'écoles est de 4. Il y a l'école de Saint-Malo, une école à Nantes, une école à Marseille et une école au Havre. Bon, nous savons aussi que le Havre a fait le forcing pour essayer de rassembler dans sa propre ville le maximum de ses 4 centres pour le réduire éventuellement à 1, mais peut-être seulement à 2 si Marseille était maintenue. Bon, et ils ont d'ailleurs construit une école qui a une capacité largement supérieure à leurs propres besoins, ce qui, évidemment, n'est pas sans nous inquiéter. Même si cette école, le sur, la surcapacité a été mise à disposition de l'école de commerce du Havre. Il n'empêche qu'elle existe. Donc, le NSM est confronté à un problème d'implantation intramuros qui n'est pas nouveau. C'est un site magnifique, tout le monde le connaît, mais il y a quelques inconvénients. C'est évidemment que les conditions pédagogiques dans lesquelles maintenant cette école fonctionne, et pour ceux qui l'ont visité de fond en comble, vous le savez, sont plus adaptées à l'enseignement comme on le souhaite aujourd'hui. Les machines sont dans les sous-sols, dans des petits ateliers qui sont extrêmement confinés. L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite n'est pas assurée. C'est un immeuble difficile à modifier. Et donc le NSM a regardé dans quelles conditions elle pouvait imaginer de rendre ce bâtiment compatible. Elle n'a pas trouvé de solution, très clairement. Donc nous avons été interrogés sur la possibilité de trouver une autre solution. Que nous n'avons pas attendu trop longtemps d'être interrogés. Très rapidement, nous sommes dit il faut bouger, sinon le risque de voir partir l'école va amplifier. Donc, nous avons pris une position très rapidement qui consistait à mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs. Bon, évidemment, l'État en premier, la ville, puisque ça se passe sur Saint-Malo. Donc, j'ai dit tout à l'heure l'agglomération qui a été sollicitée, qui a délibéré il y a une semaine, et la région, qui d'ailleurs s'est mise autour de la table extrêmement rapidement et a eu une position très allante pour assurer la pérennité de notre école. Donc, en fait, on en est maintenant à acter du montage qui serait retenu pour la reconstruction de cette nouvelle école qui se situerait donc sur le campus de la Croix des Îles, sur le terrain contigu du lycée public maritime Florence Artaud. Bon, c'est d'autant plus un endroit opportun que les synergies se sont développées entre les deux établissements et que d'ailleurs il est possible de partager les ressources, les amphis, etc. Donc la région s'est mobilisée, a d'ailleurs très rapidement proposé de prendre la main et d'assurer la maîtrise d'ouvrage de cette école-là, et donc du coup aussi de financer une bonne partie des investissements correspondants. Alors aujourd'hui, le montant des investissements, c'est 13,4 millions d'euros pour la partie exclusivement école. Donc l'engagement qu'a pris que veut prendre la ville de Saint-Malo, que je vous mets à votre délibération, c'est de réinjecter intégralement le bénéfice de la valorisation du site actuel dans la reconstruction de la nouvelle école. Puisqu'il se confirme que, après un débat qui a manifesté des avis divergents, la propriété de ce site est bien à la ville. D'ailleurs, nous avons reçu aujourd'hui une note qui le confirme de la part du notaire en charge de regarder le sujet. Donc, il a retrouvé les actes. C'est compliqué tout ça, parce que j'ai d'ailleurs découvert que c'était une prison avant 1932, cet endroit. L'école est arrivée dans les années en 1932. D'ailleurs, je ne sais pas exactement où elle était avant. Il va falloir qu'on fasse des petites recherches historiques. Et à partir de cette époque-là, elle s'est implantée. Puis il y a eu des mouvements de redécoupage de parcelles, etc. Ensuite, la reconstruction, puisque elle s'est reconstruite. Tout ça, ça conduit à des actes en cascade, multiples et variés, avec en plus une partie des archives qui ont été brûlées dans l'incendie de l'intramuros. Donc vous imaginez le travail de fourmi qu'a produit le notaire qu'on a missionné pour ça. Donc il nous a sorti la note et c'est pas le hasard, mais les choses étant bien faites, on a reçu ces conclusions aujourd'hui. Donc ça rassure pleinement, quoi. Bon. Donc ça nous permet d'affirmer la promesse que nous avions faite, que nous sommes en mesure de réinjecter le bénéfice de la valorisation de cet emplacement. Et bon, on a une estimation qui vaut ce qu'elle vaut à ce moment, puisque ça suppose d'avoir des investigations et des estimations plus précises. Elle est aujourd'hui, on pense qu'on peut valoriser cet endroit au niveau de 5 millions d'euros. Alors, l'agglomération a délibéré pour participer à hauteur de 800 000 euros au titre de sa compétence sur l'enseignement supérieur. Donc 5 millions plus 800 000 euros, ça fait 5 millions 8 par rapport à 13,4. Vous voyez qu'il en manque un peu. Et donc l'État devrait normalement participer. On ne sait pas encore bien de combien. Et la région assure... je ne sais pas si M. Perrin va me confirmer, mais le bouclage de l'opération, je vais le dire comme ça, ce qui n'est pas la position nécessairement la plus agréable. Ça dépend à quel niveau on boucle, hein. Mais bon, ceci étant, je redis, j'avais eu très rapidement un échange avec le président Le Drian, et très rapidement, il nous a dit et confirmé, c'était il y a déjà 3 mois, que la région serait présente et qu'il n'était pas question de laisser partir... cet établissement. Alors ça, c'est donc pour la partie école, et il reste une discussion autour du Sésame qui devait augmenter ses capacités par la construction d'un deuxième Sésame à côté du premier sur le fond du bassin Bouvet. Là, aujourd'hui, la solution qui est préconisée par le NSM, c'est plutôt... d'installer cet équipement-là sur le même site, enfin, tout au moins pour la partie qui peut être exploitée en n'étant pas boraquée. Et en particulier, il y a besoin d'une piscine pour faire un certain nombre de certifications de sécurité, et ça peut très bien se faire dans une piscine. Et il faut des vagues, donc c'est pas dans la mer que ça se passe. Il reste quand même un petit peu une partie des équipements du Sésame qui devront être boraqués à côté du Sésame 1, mais l'essentiel des installations, on nous dit que ça pourrait se trouver là-bas, ce qui paraît par ailleurs être une bonne idée. On a regardé du point de vue du terrain, il y a moyen de loger tout ça dans ce terrain, donc ça semble possible. Voilà ce que je voulais vous dire. Cette intégration technique du bassin instrumenté du Sésame 2, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est en dehors des 13,4. En fait, c'est estimé à 2 millions d'euros et ça donne lieu à des financements par ailleurs. D'ailleurs, un financement d'ailleurs de SMA. Saint-Malo Agglomération avait déjà délibéré il y a plus d'un an, dans le cadre du premier projet de Sésame 2, pour apporter aussi une participation. Alors, Patrick, de 300 000 euros en cash. Alors, c'est 300 000 euros en cash et 500 000 en avance remboursable.
200 000 en subvention et 300 000 en avance remboursable.
200 et 300, d'accord, c'est ça. Bon, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, et c'est dans une autre enceinte que la question a été discutée. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous redonner le contexte et vous inciter à être très allant derrière ce projet-là, parce que... il ne faut pas se rater, quoi. Sinon, nous, on ne viendra pas nous repêcher, je pense. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Lefebvre? Oui.
Oui, je pense que quelqu'un l'a posé. C'est la question concernant la cession de ce terrain à un minimum de 5 millions d'euros. Est-ce que la ville imposera un cahier des charges très précis? Est-ce qu'il y a beaucoup de contraintes ABF? Bon, on imagine que ce site est extrêmement attractif, mais est-ce que la ville aura quand même une détermination à faire quelque chose qui soit très intégré dans le site, quoi.
Je pense qu'il est très contraint, ce site. Hein. Il est très, très contraint. Donc, ça sera quand même globalement dans l'emprise du site et dans sa volumétrie. Ça ne va pas être très facile, hein. C'est clair. Oui, la chapelle, au passage, elle n'est pas propriété de la ville. Oui, la seule, mais ça, on l'avait vu très vite. Au moment des redécoupages de propriétés, la ville s'était super bien débrouillée, si je puis dire, parce qu'elle avait dit « Oh, la chapelle, là, ça pourrait occasionner sûrement un certain nombre de dépenses d'entretien et autres, donc l'État a gardé la chapelle. » Ça, c'est toujours une propriété de l'État. Bon, c'est pas une chapelle en activité, hein, c'est une chapelle qui sert de lieu de réunion. Enfin, vous êtes déjà passé dans la chapelle pour boire un verre. Hein. C'était pas pour boire le calice. C'est pas de bon goût, me dit Monsieur Huchette. Oui.
Sur la parcelle, il y a un cloître aussi. Et puis question,
ouais, ouais, le cloître fait partie de la chapelle.
Ah, ça fait en même temps. Ah, ouais. Okay.
C'est seulement la chapelle qui est hors propriété de la.
Et je pense que le bâtiment lui-même est une construction relativement récente. Ça a dû être construit après
la
guerre.
C'est la reconstruction. Hein.
Voilà, donc les années 50. Pas de valeur. D'accord.
Donc on va se retrouver dans un site extrêmement contraint. Et je ne passe pas que ce soit pour faire un hôtel. Voilà. Je pense que c'était un peu sous-jacent à votre question. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut, M. Perrin ?
Oui, je ne m'exprimerai pas sur l'utilisation des chapelles. Je craindrais d'attirer le courroux de M. Huchette.
Ouais. Non, quoi que les radicaux de gauche qui de ça ne s'expriment pas sur les chapelles, c'est ça. C'est louche.
Enfin, si c'est des chapelles où on y boit un coup, moi, je n'ai pas de problème, j'ai pas de difficulté avec ça. Non, simplement pour dire que je pars faire la démonstration que j'ai faite la semaine dernière au Conseil communautaire. S'il n'y a pas d'union sacrée sur un sujet comme celui-là, et je reprends le terme sacré, s'il n'y a pas d'union sacrée, ça imprègne, vous voyez, finalement. S'il n'y a pas d'union sacrée sur un sujet comme celui-là, on est sûr de perdre l'école. C'est parce qu'il y avait eu cette union-là la première fois que l'école avait été sauvée. Donc il faut absolument que tout le monde s'y mette. Alors je m'exprime là en tant qu'élu de Saint-Malo. Je laisserai le soin au rapporteur général du budget de la région de se débrouiller pour boucler financièrement cette affaire-là. C'est vrai que bon, c'est pas nécessairement ce qui était prévu dans nos plans de financement, donc faut se débrouiller un peu. Mais si on n'intervient pas très fortement, effectivement, vous l'avez dit, cette école fermera, parce que le but quand même de certains des acteurs de ce dossier, c'est qu'il n'y ait plus qu'une seule école au Havre, peut-être deux Marseille, mais enfin qu'il y en ait une au Havre.
Éventuellement Marseille.
Éventuellement Marseille, pour être gentil avec les Marseillais. Ouais. Or, on ne peut pas concevoir que dans un pays où la moitié des officiers de marine marchande sont bretons, il n'y ait pas d'école en Bretagne. Donc, défendons haut les couleurs de notre ville et de la Bretagne.
Merci pour cette... j'étais hier après-midi à l'IUT. Je fais un petit... C'est dans le sujet. Hein. J'étais à l'IUT hier après-midi pour remettre les diplômes aux 46 bac pro qui ont bénéficié de l'opération Malosup, hein, qui a été financée par l'agglomération. Vous vous rappelez, vous connaissez l'affaire. Hein, il s'agit donc d'accompagner des bac pro dans le passage vers le supérieur. Hein, les aider à... Bon, c'est une transition qui peut être compliquée à partir d'un bac pro. Donc il y a 46 jeunes malouins qui sont à la Providence, lycée professionnel maritime, Maupertuis, Jacques Cartier, enfin dans tous les lycées malouins, qui ont donc bénéficié de cette... Et j'étais frappé par une chose, c'est que donc un tiers d'entre eux étaient des élèves du lycée professionnel public maritime. Je dis toujours professionnel, mais on m'a déjà tancé parce qu'il faut dire public maintenant. Je trouvais que lycée professionnel maritime, ça marchait bien, mais bon. Donc il y avait pratiquement deux tiers d'entre eux qui étaient donc des bacs pro du lycée professionnel public maritime. Et quand je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire derrière, 80% d'entre eux, c'est l'ENSM. Donc ils sont vraiment dans un cursus qui les conduit à... Bon, on peut imaginer ce que ça peut représenter si on leur dit, vous partez pour des bacs pro comme ça, vous prenez votre valise, vous allez au Havre, quoi, hein, ou ailleurs, mais au Havre en particulier. Donc ça, il y a vraiment des enjeux importants pour nous. Hein. Il faut vraiment... je ne veux pas utiliser des grands mots, l'union sacrée, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est un peu ce que disait M. Perrin, sans le dire, parce qu'il n'utilise pas des mots comme ça. Mais si, vous l'avez dit quand même, j'ai mal entendu. Alors, okay. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non ? Bon, est-ce que quelqu'un s'oppose ou s'abstient ? Merci, donc c'est fait. L'union sacrée est faite. Monsieur Charpie nous parle de la rétrocession à la commune. Alors, on a des petites questions d'emprise, de réglage.
C'est une erreur de cadastre qui remonte à la reconstruction. Et donc, c'est 6 mètres carrés qu'il faut réattribuer, qui avait été attribué par erreur à des copropriétés. Il y a une rectification à faire pour 1 euro.
Très bien. Pas d'opposition. Ben, les questions, non. Pas d'opposition, d'abstention non plus. Merci. On passe à la 19.
Voilà, donc ce sont des orieux. La 19 et la 20, d'ailleurs. C'est un espace commun d'un lotissement d'une superficie de 262 mètres carrés et qui est déjà occupé pour partie par les deux occupants, les membres de la division Payel et la SCI Huître des Orieux. Et on propose donc de leur céder à chacun la moitié de ce délaissé pour un montant de 13 100 euros pour chaque propriétaire riverain sur la base de 100 euros du mètre carré.
Voilà. Je mets au vote les deux, puisqu'en fait, c'est partagé entre les deux riverains, quoi. Hein. Pas de questions ni d'opposition ? Bien, merci. C'est voté. On va passer à la 21. Il s'agit donc de faire suite à une délibération qui avait déjà été prise sur les travaux qui sont envisagés sur le palais des congrès de Saint-Malo. Donc le processus de sélection des partenaires pour cette opération a été conduit dans les règles de l'art, et M. Le Pennec a suivi particulièrement ce dossier. Donc je voudrais peut-être lancer tout simplement l'échange par trois images que nous allons projeter sur le projet qui est retenu. Voilà, on envoie une première image. Voilà, alors peut-être commencer par le jour avant d'aller la nuit. Oui, si vous voulez. Voilà. Alors peut-être encore, vous passez à l'autre, à la précédente. Il y en a trois au total. Voilà, celle-ci. Voilà, donc c'est le photomontage du projet qui est retenu. Donc vous voyez que on a un projet qui est dans la volumétrie globalement du palais actuel, avec cependant quelque chose en plus. C'est une troisième rotonde que vous voyez au-dessus, qui permet d'augmenter les surfaces utiles du palais de grosso modo 500 mètres carrés, je n'ai pas les mètres carrés exactement avec précision. Donc, et ce projet a évidemment donné lieu à discussion, échange avec l'architecte des bâtiments de France, hein, bien évidemment. Hein. Donc on est sur un projet extrêmement ambitieux qui, je pense, va donner à notre palais des congrès quelque chose de prestigieux. Et personne ne peut faire mieux, quoi, grosso modo, si je fais en France, hein, j'entends, hein, c'est pas seulement en Bretagne. Hein. C'est, par rapport à Rennes, c'est sûr, mais en Bretagne, c'est évident, et sur la France entière, c'est aussi vrai. Hein. Donc, on va un peu vous donner maintenant des détails, mais je voulais vous montrer ces images-là pour vous situer bien les choses. Donc, en fait, l'objectif, c'est de reconditionner le palais de telle sorte que on puisse accueillir deux congrès à la fois. Donc ça suppose de remanier les entrées, les accueils, tous les accès intérieurs. Ça suppose aussi de travailler sur la restauration. Enfin, donc ça, vous voyez que ça reconditionne lourdement le palais, et plus lourdement que ce qu'on avait imaginé au début. Parce que de fil en aiguille, après avoir bien mesuré le risque qu'on avait de compétition de nos voisins les plus proches ou les plus éloignés, d'ailleurs, parce que c'est un marché très, très compétitif, hein, le marché des palais, on a voulu franchir une étape et offrir un projet qui permette immédiatement de projeter une image, une volonté de différenciation, une compétitivité par rapport à tous ces concurrents qui soient évidente. Alors, ça a un effet que je voudrais donner tout de suite parce qu'il est un petit peu en décalage avec la délibération précédente. Ce n'est pas sur les modes de gestion et tout ça. C'est sur la réalisation du projet lui-même. Lors de notre précédente délibération, la question était venue de savoir si on fermait ou on ne fermait pas le palais. Est-ce qu'on était capable de le réaliser tout en continuant de l'exploiter, en fait. Bon, compte tenu du projet qui est retenu, compte tenu du remaniement intérieur que ça nécessite, il est apparu aux techniciens, mais aussi à ceux qui gèrent le palais, qu'il était impossible de maintenir l'ouverture pendant le chantier. Alors, à partir de là, ce principe étant posé, on a évidemment travaillé sur la réduction de la fenêtre de travaux, hein, bien sûr. Mais ça nécessite quand même un certain temps de travaux. Donc, le palais fermerait, hein, après une autre délibération, j'utilise le conditionnel, évidemment, juste après la route du Rhum 2018, parce que là, c'est évidemment un événement qu'il faut qu'on puisse... Et il réouvrirait pour le début de la saison 2018-2019. Ben si, 2019-2020, pardon. Merci, monsieur. C'est vrai. Oui. Bravo, monsieur Bory. 2018-2019, non. Il ferme pendant la presque au début de la saison 2018-2019, fin novembre, pas tout à fait au début, et il réouvre au début de la saison 2019-2020, c'est-à-dire...
Le 11 septembre.
C'est le 11, ah oui. Le 11 septembre. J'avais noté le 10, mais bon... Le 10 septembre. Donc, ça fait 10 mois de fermeture. D'où, d'ailleurs, la question du déroulement d'un certain nombre de grands événements. Alors, les congrès eux-mêmes, ben, ça, c'est l'équipe du palais qui va gérer ses plannings en fonction de ça. Par contre, on a un certain nombre d'événements qui se déroulent dans le palais et qui sont pour nous d'une extrême importance et qui vont être impactés. Le premier d'entre eux, c'est évidemment Étonnants Voyageurs. L'Étonnants Voyageurs de 2019 se trouve grosso modo au milieu de la fenêtre d'ouverture, de fermeture, pardon. Et puis un deuxième événement aussi, c'est Classique au large, qui est impacté aussi, puisque c'est évidemment toujours aussi un peu avant l'été. Par contre, Quai des Bulles de l'année 2019 n'est pas impacté, arrive juste après la réouverture. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc on a bien vraiment deux sujets importants. Et là, on en a discuté avec M. Bory, évidemment, puisque c'est lui qui est directement concerné. Là, il va falloir que nous trouvions des solutions. Ça va être. Il n'est pas question que Étonnants Voyageurs ne puisse pas se dérouler dans des conditions tout à fait acceptables. On va avoir avec Michel Lebris, évidemment, les discussions qu'il faut pour mettre ça au point. Bon, déjà, toute la partie Kemalo, elle, n'est pas concernée, donc ça reste ça. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on trouve une bonne solution de substitution au palais lui-même. Bon, évidemment, la première chose, c'est le café. Les cafés littéraires, oui, qui nécessitent un espace important puisque c'est le point de concentration, le point nodal du festival. Mais il y a aussi, et bien sûr, autre chose. Hein, il y a d'autres équipements à trouver. Bon, ben ça, on va y travailler. Je pense que l'unité de lieu doit être conservée. Donc, ça suppose de trouver des solutions provisoires, mais de qualité. Et ça existe aujourd'hui. Donc il faudra qu'on y travaille, on va y travailler très rapidement, ça fait partie des contraintes, évidemment. Alors, sur Classique au large, c'est sans doute un peu plus facile, on peut utiliser des équipements communaux, enfin municipaux, mais sur Étonnants Voyageurs, là on va s'y mettre très très rapidement pour voir comment on peut régler le problème. Bon, je dirais que les solutions vont exister, c'est une question là aussi de financement qui va se poser, quoi. Monsieur Bory, non, pas spécialement à ce stade. Tu l'as eu ? Oui, ça c'est important. On avait convenu avec Jean Bory que Michel Lebris ne prendrait pas ça par la presse. Donc, mais on est toujours contraint dans ce genre d'affaires. On ne doit pas donner d'informations avant d'avoir délibéré. Mais il ne faut pas non plus mettre à mal les gens qui sont nos interlocuteurs. Donc on a trouvé un juste milieu. C'est de l'appeler aujourd'hui, voilà, et par anticipation pour qu'il n'apprenne pas ça dans la presse. Donc, tu l'as eu au téléphone, Jean.
C'est que j'avais quelques minutes de retard, parce qu'il est parfois un petit peu...
Ah oui, on n'arrête pas. Donc, voilà, les discussions sont enclenchées pour qu'évidemment, Étonnants Voyageurs 2019 soit à la hauteur des autres années. Bon, on fera une expérience nouvelle, mais bon. Michel Lebris, on peut faire des expériences nouvelles. Hein. Il a toujours plein d'idées. Voilà. Alors maintenant, je passe la parole à Jean-Michel, parce qu'il faut qu'on vous donne des éléments très précis. Ah oui, alors oui, bah, c'est celle-là qui va. Mais on va continuer. Donc il y a une photo. Ah, il veut absolument que ce soit c'est la nuit. Ben voilà. Donc c'est d'abord le jour, mais vu sous un autre angle. On va venir tout de suite. Vu sous un autre angle, vous, comme toujours, vous faites abstraction des aménagements d'arbres et autres. Tout ça, c'est toujours les architectes. Ils ont travaillé sur le bâtiment lui-même. Hein. Ils n'ont pas travaillé sur l'aménagement autour. Vous savez, vous les connaissez. Hein. Ils nous font de magnifiques images. Ils mettent plein de choses. Ça, c'est un sujet sur lequel on aura à travailler par ailleurs. Mais c'est pas. Donc, vous faites abstraction. Vous regardez le bâtiment lui-même. Bon, il n'est pas fondamentalement modifié sous cet angle-là. Bon, on voit évidemment, il y a la rotonde, et puis il y a l'aspect, les ouvertures qui sont refaites. Et puis alors, une image de nuit, allez-y, monsieur, montrez-nous votre image de nuit. Voilà. Voilà, la nuit, voilà, ça donne quelque chose d'absolument radieux. Vous parlez, c'est radieux. On présente le dossier, et puis on revient à Sylvie. De quoi ?
Juste une petite question pratique. Peut-être que les messieurs dames qui sont dans le public
ont pas vu.
Pourraient
oui.
Mettre leur chaise plus avant le.
Non mais je pense que ils peuvent faire comme
pour voir.
Il n'y a pas de souci. Vous voyez à peu près là. Vous pouvez prendre votre recul alors si vous voulez. Voilà. Merci Sylvie. Merci pour eux. Monsieur Le Pennec.
Oui, merci Monsieur le Maire. On va rentrer un peu plus dans le détail de ce bail emphytéotique administratif, donc un BEA, rappelant que donc on avait décidé l'éventualité d'y avoir recours en novembre 2015, hein, rappelant donc Monsieur le Maire l'a rappelé, l'importance de cet outil, notamment au niveau du tourisme d'affaires, et donc le recours à ce type de montage était une possibilité, sachant qu'elle était complètement, et qu'elle est toujours, ou qu'elle l'a été, détachée des travaux à réaliser au Palais du Grand Large. Donc l'intérêt d'un bail emphytéotique administratif, c'est avant tout la possibilité de garantir l'entretien du bâtiment pendant sa durée, là en l'occurrence 25 ans. Donc pour faire appel, on a fait appel à des groupements, où il y a des groupements qui se sont présentés à nous pour nous présenter cette forme d'exploitation qu'est le BEA, et il y en a eu trois, deux qui ont été retenus, hein, un groupement autour de SNI, hein, je rappelle la filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui travaillait avec la société Eiffage, avec, en termes de gestion, la société Cofeli, et qui travaillait avec l'architecte Monsieur Millet. Et le deuxième projet, le deuxième groupement qui a été, qui est celui qui a été retenu ou qui vous sera proposé, c'est Artelia, qui travaillait avec l'entreprise Cardinal, la gestion étant assurée par Infragestion et le financier étant le groupe Arkea. Donc pour pour ce type de montage, il va y avoir une société spécifique qui va être montée, bien entendu, entre ce qu'on appelle le groupement, là en l'occurrence pour Artelia, entre l'entreprise de Général et l'entreprise de gestion. Et cette société sera le preneur et ce sera avec elle que nous signerons le bail emphytéotique. Ce bail aura une durée de 25 ans. Hein, augmenté de 27 mois sur la durée des travaux, hein, l'objectif étant de signer le contrat en juin 2017 et donc une mise à disposition du bâtiment, comme évoqué quand j'ai dit le 11 septembre, c'est parce que tout était écrit et qu'effectivement, compte tenu du contexte et d'un sujet relativement complexe en termes de délai, qui le bail emphytéotique permettant justement de border en termes de date la mise à disposition de ce palais, il est prévu, effectivement, il était écrit que c'est même la mise à disposition, enfin il sera livré le 10 septembre, je préfère que le 11 d'ailleurs, à 17h, de manière à pouvoir nettoyer et exploiter dès le 11 septembre. Le coût prévisionnel de l'ensemble de ces travaux est de 11 566 000 euros. Alors le principe du bail emphytéotique, c'est qu'il y aura
en quelque sorte une cession de créances entre le groupement et l'organisme financier, qui donnera lieu d'ailleurs à une délibération sans doute lors du prochain conseil municipal, qui va donner lieu à refacturation bien sûr d'un loyer à la ville. Hein, le loyer d'ailleurs est détaillé dans le document qui vous est présenté. Hein, donc il y a d'abord un loyer financier qui est composé d'une partie capital et d'une partie intérêt. Hein, la partie, ce loyer de base est de 620 000 euros. Il y a une partie qu'on appelle GER, qui est une partie investissement, en fait, qui se chiffre à 72 000 euros. Hein, cette somme sera bien sûr mise de côté tous les ans pour les travaux futurs. Et il y a un rendu, inévitablement, tous les ans, de l'exploitant pour nous dire soit l'utilisation qui en était a été faite, soit elle est mise de côté pour des travaux futurs, puisqu'il est prévu dans les 25 ans. Hein, je rappelle qu'au terme des 25 ans, on doit nous rendre un établissement dans le même état, donc bien sûr des rénovations et de moquettes et de planchers, etc. Mais ces travaux sont arbitrés ensemble avec l'amphithéâtre. Il y a bien sûr la maintenance courante qui constitue la partie R3 du loyer, maintenance courante, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, tout l'entretien, toute la maintenance est assurée par le délégataire, tout ligne par ligne, vous vous doutez bien, cette maintenance, comme le gros entretien, ont été discutés par les services. C'est le résultat de pratiquement 9-10 mois de travaux et on doit être à la V5 quand on a abouti sur ce dossier-là. Donc toute ligne a été discutée, vue, analysée par les services. Donc cette maintenance courante sera refacturée en quasi-totalité à l'exploitant de la salle, puisque ça passe de la maintenance, bien sûr, classique de la sécurité, mais également en passant par la maintenance des ascenseurs, donc qui donnera lieu à refacturation à l'exploitant et des frais de gestion, puisque là aussi, toute la gestion sera confiée à l'amphithéâtre, et donc la ville ni les gens du Palais du Grand Large n'auront à intervenir, ce qui occasionnera bien sûr pour eux des économies, puisque ce sera pris en charge dans le cadre de ce loyer. Donc vous avez un chapitre sur le financement du loyer, donc qui donnera lieu à cession de créance, mais là c'est un peu technique, c'est entre le groupement constitué d'Artelia et d'Infragestion avec Arkéa, et donc la mise en place est prévue pour le démarrage des travaux, comme signalé, est prévu en novembre de 2018, rappelant que l'objectif, enfin, et l'aboutissement, parce que et je tiens à saluer d'ailleurs les deux groupements, hein, qui travaillent sur ce dossier-là depuis un an et demi. Je rappelle qu'il n'y avait pas eu de prime ou d'argent donné pour ce concours, et que les deux groupements, pour en arriver à de tels projets, ce ne sont pas que des photos, ils ont été validés, ils ont été discutés, améliorés, amendés, et ce travail a été important, et les deux groupements étaient dans l'attente, on le sait, de la décision, puisque c'était un travail relativement conséquent. Simplement quelques points en termes d'accueil, c'est qu'effectivement demain on pourra accueillir simultanément, ou ils pourront accueillir deux congrès de 600 à 800 personnes, bien sûr, ce qui est impossible aujourd'hui, que toute la logistique liée, notamment l'accès aux livraisons, a été revue, toutes les circulations ont été redéployées, on double les surfaces de stockage, on double les ascenseurs, tout un système du rez-de-chaussée jusqu'à l'étage, avec des systèmes bien sûr de desserte au niveau de chaque étage. Vous ne l'avez pas vu, mais le remplacement des menuiseries extérieures, quelque chose d'assez sympa. Au niveau de la rotonde, vous vous rappelez qu'il y a une rampe, cette rampe-là sera supprimée, ce qui permettra d'ailleurs de donner d'extérieur un aspect très intéressant au niveau du palais. Donc ça va être abaissé, l'étage de la rotonde, vous voyez où il y a l'embargement, où il y a une différence de niveau, tout va être rattrapé à ce niveau-là. Donc toutes les ouvertures sont refaites, bien entendu toutes les installations techniques, courant fort, courant faible. Le hall d'accueil qui passera, sera étendu sur près de 135 mètres carrés pour pouvoir accueillir deux congrès. Hein, et comme vous l'avez vu, la création d'une troisième rotonde et une salle supplémentaire qui correspond à peu près à une extension de 455 mètres carrés, qui permettra d'accueillir d'un seul tenant jusqu'à une jauge de 800 repas d'un seul coup dans une seule pièce. Voilà, donc l'ensemble de ces travaux ont été bien sûr chiffrés, l'ensemble des loyers discuté, hein, sachant encore une fois qu'il, jusqu'à la dernière minute, la force de la discussion que l'on avait avec les services était de dire si c'est pas un BEA, ce ne sera pas un BEA. Donc il convenait d'allier certes l'architecture et les travaux envisagés, mais dans des conditions financières intéressantes pour la ville et avec une sécurité en termes de BEA, puisque bien entendu l'intégralité des travaux est supportée, certes pas l'amphithéâtre, mais dans des délais contraints et avec des moyens que l'on va mettre en œuvre qu'il serait impossible de mettre en œuvre si ce n'était pas dans ce cadre-là. Je reprends par exemple, ne serait-ce qu'en termes de délai de livraison et en termes de coût également, puisqu'on a bien entendu mesuré les plus et les moins d'avoir recours à cet outil. Et nous sommes convaincus que dans le cadre de cette opération, c'est le moyen qu'il faut retenir. Et l'architecture, sachant qu'on va reprendre bien entendu maintenant de A à Z ce dossier, puisqu'une fois le permis de construire délivré, il conviendra de repasser par toutes les étapes pour la mise en œuvre et un début des travaux en novembre 2018. Voilà, monsieur le maire.
Merci. Intervention, monsieur Schitt.
Oui, merci. Effectivement, nous voulions intervenir sur ce dossier, mais avant d'intervenir à proprement parler, j'aurais deux petites questions pour être sûr de ne pas commettre d'erreur. Dans la délibération, en fait, on vote sur le principe du BEA. Il a déjà été validé, mais sur le bail en lui-même, ça implique qu'on n'ait pas besoin de voter sur le choix du preneur, puisque le preneur est déjà dans le bail. Parce qu'en fait, on ne vote pas sur le choix du preneur. Donc, ça, je veux dire, d'un point de vue technique, le fait de voter pour ce BEA implique que ça valide le choix du preneur fait par la ville.
Ah oui.
Oui, d'accord. Non, je voulais juste en être sûr. Deuxième question, et avant l'intervention, c'est en étudiant ce dossier. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, j'ai pas trouvé d'ailleurs, mais peut-être que vous avez m'enseigné, j'ai peut-être mal lu, où se trouvaient toutes les annexes de ce contrat. Alors, est-ce qu'il y en a qui m'auraient échappé? Parce que quand on liste les annexes, on en a deux sur 13 concernant le contrat principal. Et je dirais même que sur ces deux annexes, concernant l'annexe 1, par exemple, qui est présente effectivement, on se rend compte que c'est un peu une histoire de poupée gigogne, puisque l'annexe 1 elle-même a 6 annexes. Donc comme on n'a pas l'annexe 1, on n'a pas les annexes des annexes. Et on ne sait pas encore s'il y aurait des annexes, des annexes. Et alors non seulement c'est une histoire de poupée gigogne, mais en plus c'est un peu une référence circulaire, puisque deux annexes de l'annexe 1, donc qui est elle-même une annexe, font référence, pour nous expliquer, aux annexes initiales. Donc, par exemple, l'annexe 2, cette annexe est conforme aux annexes 5 et 9 du BEA, donc qu'on vient de voir. Donc la question, c'est, parce qu'on a eu un peu de mal à étudier complètement ce dossier, c'est, est-ce que les annexes, où sont-elles? Est-ce que je les ai mal vues? Est-ce que ça m'a échappé? Ou est-ce qu'elles ont été fournies avec le... Ou est-ce qu'elles n'ont pas été fournies? Je ne sais pas.
Je peux dire...
Pardon, excusez-moi.
Comme j'ai dit, toute la partie financière donnera lieu à délibération lors du prochain conseil, puisque là, il conviendra de signer la cession financière, l'arrivée et la mise en place avec Arkéa de ce loyer, du principe de loyer. Donc tout ce qui concerne cette partie-là n'est pas dans les annexes et le sera lors du prochain conseil municipal. Après, concernant l'ensemble des annexes, l'ensemble des éléments relatifs au BEA, je vais pas vous dire, mais il y a quand même nombre d'annexes qui ont été délivrées. Il faudrait regarder. C'est à la fin du conseil municipal que vous avez les annexes, a priori.
Annexe numéro. Voilà, elles doivent être à la page. Alors c'est
à la fin de l'ordre du jour.
À la fin de l'ordre du jour, oui. Alors on est annexe rapportant à la question numéro 21. Voilà.
Bon, alors, tout ça. Alors, si vous permettez, effectivement, si elles sont toutes là, alors il y a d'énormes manques qui rendent difficile la prise de position, une prise de position dans ce conseil. Alors, certaines annexes, par exemple le plan du terrain d'emprise, etc., il est précisé, cette annexe sera intégrée ultérieurement, donc acte. Mais un certain nombre d'annexes importantes, il n'est pas dit qu'elles seront intégrées ultérieurement, concernent par exemple la liste des entrepreneurs et prestataires du preneur, le programme détaillé des travaux.
Pas de l'avoir.
Oui, mais je suis désolé, mais il y a des éléments qui sont ici, qui sont importants si on veut réfléchir à notre vote. Par exemple, le montant à financer, les modalités de financement. Qui font référence systématiquement, auxquelles ces annexes sont référencées dans un certain nombre d'articles qu'on trouve dans le contrat en lui-même. Donc, et d'ailleurs, la délibération que vous nous demandez d'approuver, monsieur le maire, précise que le Conseil doit approuver le bail emphytéotique, en ce compris ces annexes, dont la convention de mise à disposition qu'on a, ils forment un ensemble contractuel indissociable. Ouais. Donc le contrat. Déjà, si je vous pose cette question, c'est parce que ça induit toute l'analyse qu'on a pu faire sur la base de documents fournis de manière extrêmement partielle. Et j'insiste là-dessus, ces documents auraient dû être fournis, ou alors la non-fourniture de ces documents aurait dû être justifiée, de sorte qu'on puisse se prononcer de manière éclairée. Alors... Nous allons faire un certain nombre de remarques, si vous permettez.
Monsieur Chit, je vais quand même répondre à votre première partie.
D'accord.
Je ne sais pas dans quel type de débat vous voulez nous amener. Hein. On peut dire qu'il n'y a pas les informations, etc. Vous avez pris un exemple. Ça ne peut pas être là-dedans. Quand vous dites quelles sont les entreprises qui vont, la liste des entreprises qui vont intervenir, par définition, elles ne peuvent pas y être. Puisque c'est justement... l'objet du contrat qui va conduire à ce que celui qui est retenu procède aux appels d'offres. Est-ce que vous avez bien saisi la logique de tout ça? Donc, je ne sais pas dans quelle discussion vous voulez nous embarquer. Je pense qu'aujourd'hui, le principe avait été posé en son temps sur le bail emphytéotique. Aujourd'hui, on donne les éléments globaux d'économie du projet, avec un certain nombre d'annexes. Qu'elles ne soient pas toutes là, c'est possible à ce stade-là, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas être renseignées à ce stade-là, mais ça ne remet pas fondamentalement en cause la délibération qu'on vous met, sauf à vouloir aller chercher des poux dans la tête sur... mais je ne pense pas. Vous avez tous les éléments, l'économie globale du dossier, tout l'articulation juridique... on me dit, dans les annexes rapportant la question numéro 21, vous en avez, je sais pas combien, là, d'annexes. Bon, peut-être que vous les avez pas toutes regardées, mais bon, alors, allons pas dans un mauvais débat. Restons un peu sur le fond. C'est ce que vous vouliez faire maintenant, je crois.
Oui, alors, je comprends tout à fait votre remarque. Ne pas aller sur un mauvais débat, c'est-à-dire chercher la petite bête. Oui, ils nous ont pas donné les annexes. Non, le débat n'est pas là. Le débat, c'est qu'on fait une analyse, et donc l'intervention que nous faisons est fondée sur des documents qui sont par nature incomplets. Et je ne serais pas étonné d'ailleurs que certaines remarques que vous ferez à la suite de notre intervention nous disent « Oui, mais ça, c'est dans certaines annexes que vous n'avez pas. » Alors, juste deux, trois choses...
Que vous ne pouvez pas les avoir.
Non, mais attendez, il y a quand même des choses, par exemple, qui vont nous concerner directement, on va en reparler tout à l'heure, mais la répartition des charges d'entretien. Comment vont être répartis entre la ville les responsabilités.
C'est fait,
donc.
C'est fait ça.
Non, oui, bah c'est fait. Bah c'est fait, mais c'est pas de. C'est fait.
Mais si c'est noté. Enfin,
vous le savez.
Si vous n'avez pas vu ça, mais c'est dans le dossier.
Alors,
la répartition R1, R2, R3, elle est dans le dossier. Enfin, vous l'avez pas lu.
C'est ça que vous appelez. Bien sûr, si j'ai eu.
Vous l'avez pas lu.
Moi, je cherche la répartition.
Est-ce que vous voulez qu'on vous compte le nombre de marches, d'escaliers, de balais? C'est ça que vous nous cherchez.
Bon, vous moquez pas, monsieur le maire.
Je me moque pas, parce que je crois que vous êtes parti là.
Non, on n'est pas parti.
Sur une discussion.
Non.
Je ne sais pas où ça va nous mener.
Alors, ça va vous mener au point suivant. C'est que ça, c'est un préambule pour vous dire qu'on a beaucoup de mal à analyser ce dossier. Je suis désolé, mais si vous voulez qu'on prenne le temps, moi je veux bien le faire avec M. Le Pen, et qu'en dehors de ce conseil, de passer une heure pour lister tous les points qui manquent pour que le conseil soit réellement informé, vous verrez que ce n'est pas faux. Moi, je voudrais faire une... Alors ça, le débat est clos. Il y a des informations qu'on n'a pas et peut-être que vous y répondrez. Moi, je voudrais faire remarquer une chose, c'est que vous avez fait le choix d'un bail emphytéotique. Il y a plusieurs remarques à faire sur ce type de choix. D'abord, le coût est extrêmement élevé pour la ville. Le coût est extrêmement élevé pour la ville si on considère uniquement sur 25 ans, Ça représente 18 millions d'euros hors taxes en tout, 24 millions TTC. Sur la seule partie travaux, le BEA sur 25 ans va coûter plus de 15 millions d'euros, alors que si on l'avait financé même à un taux important, directement par la ville, on aurait payé presque 2 millions d'euros en moins. Donc c'est un coût important pour la ville.
Information gratuite.
Non, information chiffrée.
Gratuite.
Bon, c'est pas gratuit, ça coûte 1 million, 2 millions, c'est gratuit. Ben merci.
Affirmation est gratuite.
Oui, ben, sauf que c'est dans vos documents. J'y peux rien. Moi, c'est vous qui me les avez donnés. C'est pas moi qui les ai faits, ces documents.
Vous avez tout trouvé dans les documents, alors.
Justement. Bien. Bonne réponse. Je n'ai pas tout trouvé dans les documents. Deuxième chose. Et vous allez me dire que j'aurais dû trouver ça dans les documents. Les 157 000 euros de maintenance annuelle. Je n'ai pas trouvé dans les documents la vraie répartition, puisqu'il est dit qu'une partie de la maintenance et des grosses réparations resteront à la charge de la ville. Donc la ville reste responsable de l'entretien des grosses réparations. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment elles sont détaillées? Ça, on ne le sait pas, mais peut-être que c'est dans une annexe, effectivement. Et la question, la vraie question, c'est de savoir ce qui va rester à la charge de la ville. Dans le cadre de l'exécution de ce BEA. Donc il y a vraiment un problème de non-visibilité d'un certain nombre d'informations que nous n'avons pas trouvé dans ce document, mais je suis prêt à regarder avec vous si vous me montrez le contraire. Oui. Ensuite, la vraie question aussi, c'est ce BEA nous engage sur une très longue période, 25 ans. Pourquoi est-ce une longue période? Alors, on a fait par exemple le parking souterrain sur 30 ans. On a fait le parking souterrain avec un engagement sur 30 ans. Ce n'est pas tout à fait la même chose, un parking souterrain et le Palais du Grand Large. Le Palais du Grand Large, c'est un outil vivant, un outil qui peut être amené à évoluer. Et donc, cet engagement sur 25 ans nous amène en 2044. Alors, pour information, du début de cet engagement jusqu'à 2044, il y a 5 élections municipales. Ça vous donne une idée du délai. 5 élections municipales, ça veut dire que les maires... Vos successeurs resteront engagés par ce contrat. Resteront engagés de telle sorte que si, par exemple, un nouveau maire élu en 2038, ouais, ce sera ni vous ni moi, veut engager des travaux, pour se dégager de ce contrat, la pénalité, les indemnités devraient tourner autour de 5 millions d'euros à la valeur d'aujourd'hui. C'est écrit. Alors ça, par contre, c'est dans le contrat. Hein, vous ne m'arrêtez pas, monsieur Le Pennec. Ça vous fait rire. Ça veut dire que, concrètement... Ce contrat nous interdit soit de faire des évolutions, soit de demander des frais supplémentaires si jamais on redemande des travaux aux preneurs, soit de prolonger le bail. Donc ça veut dire que, en fait, en faisant ce choix, vous limitez vos investissements immédiats et vous reportez la charge sur les mandatures suivantes. Et je vais conclure là-dessus. Parce que je ne veux pas rentrer dans tous les détails, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Il y a un énorme reproche qui est fait à ce montage juridique, et vraiment c'est à juste titre, parce que ce système permet un contournement des contraintes liées aux règles de marché public. Ce système également permet d'abolir, de faire abstraction d'une vision à long terme de la collectivité, et ça risque d'engendrer d'importantes dérives budgétaires. Pour information, la Cour des comptes a systématiquement relevé que ce système était dangereux. C'est justement parce que ce système est dangereux, c'est vraiment pour cette raison, qu'une ordonnance a été prise en juillet 2015 qui interdit dorénavant de pratiquer ces systèmes. Alors il se trouve que cette interdiction démarrait au 1er janvier 2016, sauf pour les appels d'offres passés antérieurement. La ville a passé son avis d'appel à concurrence le 23 décembre, à 8 jours près. On n'aurait plus pu signer ce BEA. Donc vous avez fait un choix qui est sur le principe, mauvais parce que cher et parce que ça bloque vos successeurs à venir jusqu'en 2044. Et ensuite, je regrette, si j'ai commis des erreurs dans mon propos, de ne pas avoir eu davantage d'éléments, notamment dans le dossier, pour faire une analyse plus complète.
Je ne vais pas reprendre tout. Je vais simplement vous dire quand vous évoquez, par exemple, la répartition entre la maintenance, le gros entretien et autres, monsieur, si je vais simplement vous demander une chose, vous pouvez le faire peut-être avec certains collègues dans la SAD qui connaissent ça par cœur, vous irez voir les contrats de ce type, ce que veut dire R1, R2, R3, R4. Ils vous expliqueront. J'en vois un qui opine du chef, qui connaît bien le sujet. Ils vous expliqueront. Et ils vous expliqueront que c'est très précis ce qu'on doit mettre dans chacun des chapitres. C'est parfaitement codifié. Et c'est utilisé universellement, pas que dans les BEA, puisque c'est comme ça que sont, par exemple, les contrats de maintenance sur les chaudières de la ville depuis longtemps. Donc je vous incite à un peu creuser cet aspect des choses que vous connaissez moins bien, et donc vous verrez que c'est parfaitement précis. Quant au reste, je ne vais pas me lancer dans un débat. Vous nous sortez, je dirais, tous les poncifs de ceux qui partagent un peu vos idées. C'est toujours les mêmes théories. Là, on ressort les mêmes choses, sans arrêt. Est-ce que quand on s'engage sur un emprunt, qui n'est pas un BEA, ça n'engage pas non plus le futur ? Bien sûr que si, ça l'engage. La question, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Alors, on peut rester comme ça, hein, on ne fait rien du tout, on attend que ça se passe, ou alors on le fait nous-mêmes et on emprunte. Ça engagera aussi le futur, hein, y a pas de raison hein, que ça n'engage pas le futur. Parce que c'est un investissement pour 25 ou 30 ans. Donc c'est logique que le financement soit réparti. Il le sera par un BEA ou par une autre méthode, mais il le sera. Donc on peut rester tranquillement comme ça, on attend que les Jacobins s'ouvrent, on attend que tout ça se déroule tranquillement, et puis voilà. Alors, si vous voulez, là-dessus, je fais une réponse un peu globale. Ben, je connais vos positions, on connaît ces théories sur ce qui est moche dans toute cette approche BEA, c'est une horreur, etc. On l'entend, bon, c'est connu. Simplement, on en voit tous les avantages au travers de ce dossier, on a pu parfaitement... Et on n'est pas les seuls à utiliser des montages de cette nature qui s'avèrent parfaitement efficaces, en particulier pour des installations comme celle-là ou des équipements comme ça qui sont confiés en gestion. C'est parfaitement adapté. J'ai vu M. Perrin, mais M. Bessèche, je voulais intervenir.
Oui, merci M. le maire. Je voulais simplement rappeler qu'on n'est pas là pour reparler oui ou non par rapport au BEA, puisque ça a été voté en novembre 2015, qu'aujourd'hui, ce que l'on peut voir dans les documents, c'est qu'il y a un comparatif qui est fait, qui nous est donné des informations entre les deux derniers groupements. Donc on a suffisamment de documents pour comprendre que aujourd'hui on vote pour l'attribution du groupement avec Artelia et que effectivement l'objet du BEA, c'est que c'est une forme de délégation de maîtrise d'ouvrage donc pendant 25 ans. Et qu'en face de ça, la ville va effectivement payer un loyer. Mais il faut savoir aussi qu'à l'issue de ces 25 ans, de toute façon, on reste ou on redevient propriétaire si on veut. Mais tout l'objet de la définition des R1, R2, etc., c'est qu'au bout de 25 ans, il est restitué à la ville un outil qui est en parfait état de marche. D'où, comme il était indiqué, voilà, c'est le R3. Le R3, il y a une... Non, pas le R3, le R2, la provision au niveau du gros entretien réparation. Tout ça, ce sera à valider au fil du temps. Et la partie entretien maintenance fait partie aussi de ceci. Et comme il a été dit, je crois, ce sera refacturé, etc. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'objet, au bout de 25 ans, sera rendu à la ville en parfait état. C'est l'objet de ce type de contrat.
Il doit être rendu dans son état initial. C'est ça la formule. Donc je pense qu'on ne laisse pas de cadeaux empoisonnés à nos successeurs. Mais monsieur Sitt, d'ailleurs, vous avez au moins deux personnes qui connaissent bien les contrats dans cette salle, voire plus, mais qui vous expliqueront ce que c'est qu'un contrat R1, R2, R3, R4. Monsieur Perrin a demandé, alors je... Ah, c'est juste, vous êtes d'accord, Madame Léa.
Oui, je voulais compléter le propos de notre collègue. Bien entendu, c'est notre position globale au groupe et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y avait des choix à faire et il était impératif de se doter d'un outil qui nous permette, au moment effectivement où les Jacobins ouvrent à Rennes, de préserver tous nos atouts, parce que nous en avons, pour avoir un outil multi-performant et effectivement, il y a des choix qui ont été faits. Nous avons voté ces choix et c'est un atout économique important puisqu'on sait bien que le Palais du Grand Large essaime dans l'économie locale du fait des congressistes qui y viennent et le fait de pouvoir accueillir, d'élargir la jauge et de pouvoir accueillir deux congrès à la fois, ça participe d'une bonne gestion à notre avis. Voilà ce que je voulais ajouter en complément.
113 000 congressistes sur la dernière saison.
Hein. Tout à fait. Mais ce qui veut dire qu'on en aura davantage encore demain.
Exactement. Voilà. Monsieur Perrin, c'est à vous.
Merci, monsieur le maire. Je voudrais dire trois choses. La première, c'est que c'est un dossier sur lequel il faut faire mouvement. Je regrette, par contre, qu'on veuille se focaliser toujours sur la concurrence des Jacobins. Vous l'avez dit d'ailleurs Mais est-ce que je peux aller jusqu'au bout de mon propos ?
Allez-y.
Non, je ne suis pas troublé. Enfin, je suis troublé de soudainement cette agressivité ou de cet énervement.
Bref, il n'y a pas lieu.
Je regrette. Mais bon, j'entame mon deuxième mandat. Je me souviens de mandats précédents où on était un peu véhément à l'égard des Rennais. Les Rennais, ils défendent leur territoire comme nous défendons le nôtre. Ils ont le droit.
Il n'y a pas de
problème. Oui, mais. J'ai entendu, oui, mais nous on a le droit, il faut qu'on le fasse, je ne dis pas autre chose. Mais parfois j'ai entendu des expressions qui déniaient le droit aux Rennais d'ouvrir des équipements avec cette jauge-là, etc. Bon, mais ce que je dis simplement, c'est que pourquoi est-ce que ça me paraît un peu réducteur, c'est que vous l'avez dit d'ailleurs dans votre propos, monsieur le maire, c'est un marché national, voire européen, que le marché des congrès. Donc nous ne sommes pas simplement en concurrence avec Rennes, nous sommes en concurrence avec bien des centres de congrès et il faut avancer. Deuxième chose, moi je voudrais juste, puisque monsieur Le Pennec a parlé un peu de tout ce que ça nécessite comme travail, et pour le vivre dans une autre enceinte sur d'autres sujets, saluer le travail qui a été fait aussi par les services, parce que c'est des dossiers qui sont des contrats qui sont extrêmement complexes et sur lesquels ça demande une très grande expertise. Donc je veux saluer ce travail-là. Alors après, sur le vote. Au moment du vote sur le principe du BA, on s'était abstenu dans l'attente de la démonstration de l'intérêt financier de l'opération. Moi, je m'intéresse à l'économie générale du projet. Au fond, l'alternative, c'était quoi ? Vous l'avez dit, c'était emprunter sur une durée longue. Vraisemblablement, il aurait fallu recourir à une AMO sur un sujet aussi compliqué. Et donc, moi, là où je reste sur ma faim, si vous voulez, c'est que j'aurais aimé, pour être pleinement convaincu, que dans la délibération, quelque part, on fasse ce comparatif-là. Parce que là, si je comprends bien, on a 11 millions d'euros de travaux et ça va nous coûter en loyer, si je puis dire, 15 millions. Donc on voit bien à peu près le modèle, l'équilibre. Donc moi, j'ai pas de contestation sur ces deux chiffres. Mais c'est par rapport à l'élément de comparaison, par rapport à l'alternative qu'aurait été. Alors, en prenant tout en compte, y a pas seulement le prêt, il y a aussi une AMO. Et il y a aussi un certain nombre de coûts annexes. Ouais. Donc c'est là-dessus que je reste sur ma faim. Moi, j'attendais, je l'avais dit lors du précédent vote, j'attendais d'avoir cette démonstration-là, et elle me manque encore dans les documents qui nous sont fournis sur l'équilibre général.
Oui, sauf que alors, un petit passage sur les Rennais, parce que Mme Le Hérissé en a réajouté derrière moi, donc on les adore, les Rennais. On les aime tellement qu'on n'arrête pas de se voir. Et on les adore tellement qu'on a... On a passé un accord entre les deux palais des congrès. Déjà, il est signé pour trouver des synergies entre les deux. Donc on va pas... Et c'est moi qui ai signé de côté Malouin. Donc je suis quand même bien placé pour dire que c'est vraiment pas en train de chercher. Voilà. Mais il faut un peu se chatouiller quand on est voisin comme ça et qu'on s'aime autant. Voilà, c'est les vertus de la concurrence et de l'émulation. Donc voilà, sur la question que vous évoquez, qui était à mon avis plus en amont, hein, avant le BEA, quoi. Mais les calculs ont été faits, bien évidemment. Et d'ailleurs, j'ai vu des chiffres, mais je ne les ai pas exactement mémorisés, il y a 2% d'écart de mémoire entre la formule BEA à MO, mais je vais laisser Jean-Michel Le Pennec de donner des éléments, peut-être s'il les a à l'esprit. Là.
Oui, merci. Oui, je vais simplement donner... deux chiffres de référence et on va y revenir après. Quand on a fait la réhabilitation des salles surcouf, des salles en valeur 2005,
avec une maîtrise d'œuvre publique, on était à 1740 euros du mètre carré. Dans le cadre du BEA, calcul que vous n'avez pas manqué de faire, on est à 1440 euros hors taxes du mètre carré. Et donc, à travers cette étude et par rapport au choix qui a été fait, donc il y a eu bien entendu la comparaison entre Artelia et SNI, et j'ai fait une comparaison, si nous faisions l'investissement en direct, à titre indicatif, le taux auquel on finance avec Artelia est de mémoire de 2,24%. Aujourd'hui, bien entendu, on avait interrogé également nos prêteurs pour savoir à combien ils nous prêteraient sur 25 ans. On était à 2%. Compte tenu des travaux de ce que cela aurait entraîné en supplément, parce qu'on aurait été incapable de faire ces délais, dans un tel délai, et surtout avec les contraintes qui s'imposent, Artelia ne nous livre pas le bâtiment le 11 septembre. Quand je dis le 11 septembre, c'est parce que j'ai la date en tête, c'est 7000 euros de pénalité par jour. Donc il faudra que ce soit livré dans les délais. Et avec ce genre d'outils, par rapport aux engagements qu'est amené à prendre le Palais du Grand Large pour des futurs congrès dès le mois d'octobre, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça, c'est le premier point. Le second point, donc on a chiffré le coût des travaux et les travaux complémentaires, si on est en maîtrise d'œuvre publique, notamment tout ce qui concerne sécurité, tout ça. Voilà, ça a été chiffré exactement. Et le coût du loyer auquel ça nous serait revenu est supérieur au coût du BEA. Et là, on parle entre... pour les gros mots, on a même fait un calcul de cash flow actualisé sur 25 ans. C'est-à-dire qu'on prend la totalité du BEA sur 25 ans avec l'actualisation des flux financiers. Et le BEA s'avère la meilleure formule par rapport à un investissement direct. Alors je ne vous ai pas, j'ai pas communiqué ces éléments parce que c'est une étude interne qu'inévitablement je me devais de faire avec les services avant de prendre cette décision du BEA, puisqu'encore une fois c'est un instrument financier purement et simplement. Donc il convenait avant de prendre cette décision de faire cette comparaison SNI Artelia investissement en propre, et c'est au vu de ces documents que le Conseil a été appelé à se prononcer et que M. le maire a favorisé également le recours à ce type de montage.
Alors je dois ajouter un élément aussi pour être complet, c'est que l'association qui gère le Palais du Grand Large verse un droit d'usage annuel à la ville, et que ce droit d'usage il va être augmenté, bien évidemment, puisque l'outil va être nettement plus performant, donc on est en train de négocier les conditions, mais je pense qu'on devrait arriver, grosso modo, à un doublement du droit d'usage par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Bon, ça, je pense que c'est important de signaler, et que, ça réduit aussi l'effort financier de la ville à due concurrence. Voilà, oui.
Dans la ligne de la réponse de M. Le Pennec, est-ce qu'il est possible, je fais confiance à M. Le Pennec, mais d'avoir ces calculs-là, juste pour qu'on sache, d'avoir ces éléments de comparaison, parce que, encore une fois, moi, c'était un peu ce qui était déterminant pour moi. Alors, je vous fais confiance, mais ça serait bien qu'on ait communication, puisque toutes les opérations sont nées. Je comprends que c'est compliqué de communiquer avant, puisqu'on est dans des négociations avec des entreprises, on ne va pas dévoiler toutes ces cartes. Bon. Donc ça, je l'entends bien. Mais ça serait bien qu'on ait effectivement ces éléments de comparaison-là pour que ça nous serve ensuite, nous, aussi de base de réflexion. Et si vous vous engagez à nous donner ces documents, moi, je veux bien vous faire confiance sur ces... Parce que ce qui nous intéresse, moi, c'est l'économie générale du dispositif, c'est ça.
Vous voulez bien nous faire confiance, mais vous voulez bien aussi vous engager en sens inverse à ce que ce soit des informations qui restent... voilà. D'accord, mais je vois, oui, j'ai bien compris, bon ça je pense que, et puis je pense aussi monsieur Perrin que ça peut être utile pour aussi des dossiers qui seront traités à... au niveau régional, parce que cette solution me semble-t-il peut être, par exemple l'aéroport de Brest-Quimper, puis qu'est-ce que, voilà, bon donc voilà, l'ALEC est quand même pas le plus à droite, effectivement. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Bon. Donc, j'ajoute un point, pour être totalement complet aussi, c'est que, vous le savez, la convention avec le gestionnaire actuel arrive à expiration à la fin du mois de juin 2017,
avec la possibilité de rallonger de 2 ans cette convention. Hein. Vous le savez, ça, j'imagine. Oui, je crois que je suis sûr que vous le savez. Donc, en fait, moi, je n'imagine pas qu'on puisse changer de partenaire en plein au milieu du guet, là. Quand on est en train de faire un chantier de cette nature, parce que ça va être compliqué, hein. L'année pour eux, l'année de fermeture pendant 10 mois, enfin vous imaginez la difficulté que ça peut représenter. Donc nous aurons l'occasion de revenir sur cette question lors du prochain conseil municipal. Et moi, je vous proposerai de faire la prolongation de 2 ans, donc de l'équipe en place pour voilà pour gérer. Mais c'est pas l'objet de la délibération d'aujourd'hui, hein. Mais je préfère qu'on se dise des choses. Voilà. Oui.
Puisque vous en parlez, parce que ça faisait partie des questions que je me posais, parce que l'association a déjà connu une période de fermeture de mémoire pendant 1 an quand il y avait déjà eu des travaux,
oui.
Et ça avait mis en difficulté financière l'association.
Ouais. Mais là, oui.
Donc est-ce qu'on sera dans la nécessité, parce que ça fait partie aussi de l'économie générale, de les indemniser, enfin bon.
Non, il y a pas de. Mais bon, tout ça est en train de se regarder au niveau justement de ce droit d'usage, comment on va le répartir dans la durée, comment on fait pour leur faire passer cette phase-là. Bon, mais c'est clair que c'est un sujet. On ne peut pas l'escamoter. Bon, on ne peut pas l'escamoter. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non. Qui s'oppose? Il y a 3 oppositions. Qui s'abstient? Personne ne s'abstient. Merci. Oui, oui. Avec votre demande. Elle est notée et entendue. Bon, alors, je ne suis pas à la bonne page. Si, je suis à la bonne. Voilà. Nous arrivons sur la 18. Hein. La 22. La 18. Alors, attendez. La 22, pardon. La 22. La digue des Bas-Sablons. Vous savez que nous avons un petit bistrot de plage, là, qui n'a plus de gérant. Il fallait donc chercher un nouveau gérant. Et Monsieur Le Pennec a suivi cette affaire et va vous en rendre compte. Voilà.
Oui, il concerne la gestion du bar de la plage, hein, qui a attiré beaucoup de demandes, puisque depuis septembre 2016, il y avait une résiliation anticipée à la demande du locataire. Et donc, il y a une annonce qui a été publiée en décembre 2016, le 1er décembre, précisant donc qu'il y avait un contrat d'occupation privative du domaine public sans propriété commerciale, j'insiste, pour une durée n'excédant pas 10 ans. Une des contraintes imposées dans le cadre des propositions à recevoir était d'avoir un loyer qui était comparable au loyer précédent, à savoir 10 700 euros. Donc les propositions ont été rendues pour le 6 février. Il y a eu 67 personnes qui sont venues retirer ce dossier par écrit, et en fait 24 candidats ont répondu. Donc il y a eu une analyse des offres, un classement. Sur ces 24 candidats, 5 candidats qui se détachaient du lot ont été reçus. Et il vous est proposé, au vu du document de notation qui vous a été transmis, et du jury, parce que il ne s'agit pas d'un jury, mais des entretiens qu'on a pu avoir avec les candidats auxquels participait également Marion Lescope, quelqu'un du patrimoine, et moi-même, il est proposé de confier cette exploitation à Monsieur Morel Mathias, dont la proposition a été jugée la plus complète et la mieux disante.
Alors avec 15 000 euros de loyer,
c'est avec 15 000 euros de loyer, vous avez le détail du compte-rendu d'analyse qui est joint au dossier, hein, puisque ces entretiens sont relativement récents, puisqu'ils ont eu lieu le 28 février 2017, et vous avez et les notations et...
D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, donc Monsieur Morel, personne ne s'oppose ni s'abstient. Monsieur Morel, voilà. Mathias, qui exploite le Globetrotter, voisin d'ailleurs, parce que Globetrotter, c'est tout près de... va rendre cet endroit encore plus sympathique qu'il ne l'était. Hein.
on espère, puisque c'est un endroit où les Malouins aiment bien s'arrêter en faisant la petite balade sur la promenade des Bas-Salons. Étude et travaux sur les immeubles classés ou inscrits, monsieur Le Pennec, les monuments historiques. On demande des subventions.
Alors, cette délibération, je dirais, il s'agit plus d'une délibération de principe, hein, pour éviter de revenir à chaque fois qu'on demandera des subventions sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, hein, puisque la DRAC propose des travaux de restauration des subventions à hauteur de 25%, et quand il s'agit de travaux d'entretien, des subventions à hauteur de 50%. Hein, par ailleurs, la région propose également des subventions sur, quand il s'agit de projets immobiliers valorisant les territoires, et également en ce qui concerne la conservation du patrimoine. Donc l'objet de cette délibération est surtout d'éviter de repasser à chaque fois devant le Conseil quand on va chercher des subventions. On reviendra bien sûr quand il s'agit des travaux, hein, mais c'est voilà, avoir l'autorisation du Conseil d'aller solliciter des subventions pour tout ce qui est travaux sur les monuments classés et les monuments historiques de la ville.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Pas d'opposition ni d'abstention ? Merci. Convention de service avec Saint-Malo Agglomération pour l'entretien de l'aire d'accueil. Monsieur Loiseau.
Oui, merci monsieur le maire. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, Saint-Malo Agglo a récupéré la compétence des aires d'accueil des gens du voyage. Pendant une période transitoire, donc, Saint-Malo Agglomération aura recours au service technique de la ville de Saint-Malo sur les aires d'accueil des gens du voyage situées rue des Prairies, au lieu dit de la montagne Saint-Joseph à Saint-Malo. Dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, il est proposé de conclure une convention entre la ville de Saint-Malo et Saint-Malo Agglomération pour préciser les conditions et modalités d'intervention ainsi que les modalités de remboursement des prestations des services réalisés par la ville de Saint-Malo au profit de Saint-Malo Agglomération. Donc cette présente convention sera conclue pour une période de 1 an à compter du 1er janvier 2017 et ce jusqu'à la mise en place d'un nouveau marché par Saint-Malo Agglomération incluant ses prestations d'entretien avec un nouveau gestionnaire des aires d'accueil.
Voilà, on est dans la phase de transition. Hein. Questions là-dessus ? Non, j'imagine, c'est clair. Pas d'opposition ni d'abstention, merci. La 25, ben c'est fait. On passe à la 26. Ah, on va dénommer les voix, Madame Le Talec. Soyez attentive à ce que Monsieur Bénard va vous dire.
Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, nous avons 5 voix ou 5 rues à dénommer là, pendant ce conseil. Deux premières dans le secteur de Château-Malo, au lotissement Via Verde et sur l'opération Kermalo. Traditionnellement, sur Château-Malo, les voix sont dénommées avec des noms de peintres. Et dans la continuité de ce qui a été fait antérieurement, on vous propose donc pour le lotissement Via Verde la rue Elisabeth Vigée-Lebrun et pour l'opération Kermalo la rue Louise Bourgeois. Autre dénomination dans le secteur des Talards de la gare, une nouvelle voie qui existe entre le boulevard de la République et l'avenue Anita Conti. C'est une rue qui est parallèle à la rue Jean Jaurès. La proposition, c'est rue Pierre Bouguet. Ensuite, une voie qui existe entre la rue Jean Jaurès et la rue Pierre Bouguet, il est proposé d'attribuer le nom d'allée Louis Godin. Et enfin, dans le secteur de la Haise, la Bastille, une voie qui existe entre l'avenue John Kennedy et la rue des Prévôts, donc il est proposé que cette avenue soit baptisée avenue Aristide Olivier.
Voilà. Aristide Olivier, Terre-Neuve, né à Saint-Benoît.
Voilà.
Oui, on a l'esprit large quand même. Hein. On va dire ça au maire de Saint-Benoît. Hein. Bon, on va échanger d'ailleurs une rue à Saint-Benoît contre une rue à Saint-Malo. Hein. Oui, sinon, ben voilà. Donc, Elisabeth Vigée, artiste peintre, portraitiste. Et Louise Bourgeois, sculptrice et plasticienne. J'ai vu qu'elle était naturalisée américaine, mais bon. Alors, les deux, Bouguet et Godin, petit faible pour... c'était, vous savez, c'est participer à l'aventure de Maupertuis quand il est allé... quand il a lancé son expédition pour mesurer le méridien et montrer que la Terre était aplatie au pôle. Vous savez que c'était un Malouin qui a démontré ça, hein, c'est Maupertuis. Et donc il y avait une équipe qui était partie dans le, du côté de, la, de, la, de l'Arctique, qui était pilotée par lui, puis il y en avait une autre dans l'Antarctique, parce qu'on a fait les mesures aux deux pôles. Voilà. Donc très heureux d'avoir ces deux personnes aussi, ces deux hommes qui ont œuvré pour la science. Est-ce qu'il y a des oppositions à ça, Madame Le Talec? Non. Ça vous va tous? Pas d'opposition ni d'abstention? Merci. Monsieur Bénard, la convention avec le SDE 35 et Enedis.
Oui, alors il s'agit d'une convention tripartite entre Enedis, le SDE 35, donc le syndicat d'énergie d'Ille-et-Vilaine, et la ville de Saint-Malo. Cette convention a pour objectif de faciliter la reprise des réseaux électriques à fil nu qui existent actuellement dans certaines parties de la ville pour pouvoir les remplacer dans un premier temps par des câbles torsadés, étant entendu que la ville se réserve la faculté de remplacer ces lignes aériennes par un enfouissement si on l'estime à propos. L'objectif pour la ville de Saint-Malo, c'est en fait d'avoir la possibilité de faire de l'effacement de réseau dans des conditions bien plus favorables que celles qui existent aujourd'hui hors de cette convention. Cette convention concerne une douzaine de rues, vous devez la voir dans le dossier qui vous est présenté, et également deux opérations d'effacement de réseau qui concerneront l'avenue de Moka et l'avenue du Révérend Perrin-Bruche. Donc des conditions particulièrement intéressantes pour la ville en matière d'effacement de réseau. Voilà l'objet de cette convention, monsieur le maire.
Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est délibération, bon sang, sans problème. Personne ne s'oppose ni s'abstient. Merci. Madame Guinemer, des modifications d'imputation comptable, sur quatre subventions d'associations sportives. Vous nous dites ce qu'il en est.
Merci, monsieur le maire. Oui, donc c'est juste par rapport au changement de logiciel financier, où effectivement les codes de ces quatre clubs n'avaient pas été créés. Du coup, on ne pouvait pas leur imputer l'argent qui avait été voté au budget. Et donc voilà, on a besoin de faire une modification.
Bon, il y a des questions là-dessus, c'est un peu mécanique. Pas d'opposition ni d'abstention, merci. Madame Hervé Renaud, les subventions collèges et lycées.
Oui, merci. Alors, il s'agit d'une délibération concernant l'attribution de subventions attribuées aux collèges et lycées dans le cadre des échanges ou des voyages à l'étranger. Sur la base de 10 euros par élève s'il s'agit d'un voyage clé en main ou 15 euros s'il s'agit d'un échange. Donc voilà. Cette fois-ci, nous avons 4 collèges publics et privés, 3 lycées publics et privés, pour un montant total de 5 895 euros.
Très bien. Est-ce qu'il y a des... Oui, Madame Hervé.
Je ne participe pas.
D'accord. Très bien. Ah oui. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Donc, Madame Hervé n'a pas participé au vote. Merci. Le musée d'histoire maritime. Donc là, nous sommes sur les réserves, hein, puisque vous avez à l'esprit qu'on va démarrer par les réserves qui vont se situer donc, dans la zone artisanale nord, rue Claude Bernard. Bon, c'est M. Bory qui rapporte.
Oui, alors.
Parce qu'on va devoir composer un jury pour justement choisir le bon projet. Donc, voilà, je vous laisse parler, M. Bory.
Cette délibération qui vous est proposée vise à valider le programme technique détaillé des réserves. Donc, c'est une délibération assez technique qui fait suite aux délibérations de février 2017 concernant l'engagement de la municipalité dans un projet de création du musée d'histoire maritime sur le site des silos au fond du bassin du Guétrouin, avec pour principe des réserves externalisées. Une délibération avait déjà précisé que Une procédure de concours serait mise pour la maîtrise d'œuvre des réserves du musée, allait être mise en place. Les exigences techniques concernant les réserves du musée sont très bien détaillées dans une volumineuse annexe de 45 pages, que vous avez certainement lue, qui renvoie à trois fonctions essentielles, la conservation préventive, qui est un corollaire à tout projet muséal, l'étude des collections, accessibles aux chercheurs et pas au public, et enfin la diffusion et la circulation des collections dans le musée, dans d'autres musées et dans des expositions temporaires. Le coût de construction des réserves externalisées est apprécié à 3 millions d'euros, avec un ensemble immobilier de 830 m² utiles, avec des zones de réception, des zones de traitement, des zones de réserve et enfin une zone logistique avec accueil, gestion, locaux techniques et des espaces de vie pour le personnel. Un espace foncier est réservé dans la zone industrielle sud de rue Claude Bernard. Donc ça, c'est le premier point de cette délibération. Je pense que tout le monde n'a pas lu les fiches techniques de 45 pages. Je vous dis juste deux petits chiffres. Il y a environ 10 100 pieds.
Avec 10 100... ses annexes aussi.
Oui, les annexes.
Annexes incluses. 45 pages.
Oui, 45 pages de fiches annexes. Ouais. Donc il y a, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a plus de 10 000 pièces. Il y a 10 100 pièces qui sont répertoriées de différents matériaux, que environ 20 à 40% des collections sont présentées de manière permanente dans le musée. Ça veut dire qu'il y a une fonction vraiment de réserve qui est importante. Et puis après, le programme fonctionnel est détaillé. Je vous invite à le regarder. Alors, il y a également dans la délibération...
Je vais m'en occuper. Ouais,
une deuxième partie.
Oui, c'est la désignation des membres. Ouais.
Voilà. Et puis, il y a une troisième partie qui ne fait pas partie de la délibération, qui concerne une question de...
Oui, non, mais attends, d'accord. Laissons les questions venir.
D'accord.
C'est à chacun de poser ses questions. On ne va pas commencer à anticiper les questions.
Donc, moi, j'ai... Voilà. J'ai fini.
Donc, alors, sur la première partie, justement, s'agissant... Je reviendrai sur la constitution du jury après, parce qu'il y a une modification par rapport au texte qui vous a été communiqué. Il y a un petit sujet. Je reviendrai dessus dans la nomination des personnes. Là. Sur le projet lui-même, est-ce qu'il y a des questions? Oui, je sais qu'il doit y en avoir une, mais on va la laisser s'exprimer par celui qui l'a posée, qui était sur la PPRSM. Bon, là, il faut être clair là-dessus. Effectivement, ça oblige à surélever le terrain de 50 cm pour être à la côte. Et d'ailleurs, au passage, ça concernait directement, c'est qu'on va en profiter justement pour faire des accès, du coup, en surélevant, qui vont permettre d'avoir des pentes douces. Enfin bon. Donc effectivement, il suffit d'être à la côte, alors 2100, à 0,5 mètres au-dessus de la côte 2100. C'est ça, monsieur ?
Il y a deux zones qui sont concernées. Il y a deux zones. Une en aléa moyen, une en aléa faible.
Ouais.
Pour l'aléa moyen, en fait, c'est terrain naturel plus 50 cm. Et pour l'autre, c'est un petit peu moins contraint, puisque là, on regarde la côte 2100, il faut... voir où en est le plancher par rapport à terre naturelle par rapport à la côte 2100. Et en fait, on aura 38 cm d'écart. Mais globalement, ça ne pose aucun problème. Et on aura, sur différentes constructions à cet endroit-là, à tenir ces contraintes.
Donc en fait, grosso modo, à la taille près, 50 cm dans une grande partie du terrain, une partie du terrain. Et on est. Donc ce n'est pas insurmontable du tout, quoi. Ok, alors ça c'est pour la question du... Pas d'autres questions sur les réserves elles-mêmes. Bon,
pour dire qu'on n'est pas dans un ERP sensible, hein, ce qui serait le cas, donc il n'y a pas de locaux de sommeil, il n'y a pas de problème de...
Ouais, c'est
d'ERP
important
sensible.
De dire, c'est pas un ERP. Oui.
Juste, on n'est peut-être pas effectivement en locaux à sommeil, mais on fait quand même du stock de valeur.
Non, mais bien sûr.
Quatre, quoi, c'est simplement
bien sûr.
Ça. Hein.
Mais ça, la question du stockage de valeur est... Le PPRSM n'est pas sur ce terrain-là.
Le PPRSM prévoit effectivement la protection des personnes, mais si on protège bien les personnes, normalement les biens sont protégés de la même façon. Hein. Donc après ça, on peut prévoir un stock en hauteur plus haut.
Ce qui pose la question de la bonne conservation dans des bonnes conditions, évidemment. Hein. Mais ça, bon, problème général, quel que soit d'ailleurs le type d'intempérie, il faut prendre des précautions pour protéger des œuvres qui ont des valeurs... Alors, sur la délibération, enfin sur la partie désignation des membres du jury, le petit changement, c'est que Jean Bory, adjoint au maire délégué à la culture, ne peut pas être membre. Ça, on s'est trompé, Monsieur Bory, désolé, mais ça marche pas. On a vérifié juridiquement, donc la CAO plus alors une personnalité ayant un intérêt particulier, Madame Schmitt, ça va. Alors, comme on veut conserver un équilibre entre l'ensemble des ce qu'on va vous proposer, c'est on enlève Jean Bory et on enlève un architecte sur deux. Parce qu'en fait, les architectes, ils sont quatre. Hein. Il y a Madame Assema, qui est l'architecte conseil des musées de France. Il y a l'architecte proposé par la mission interministérielle sur la qualité de la construction publique. Et puis, il y avait deux architectes proposés par l'Ordre des architectes. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre un seul. Hein, on modifie la délibération comme ça, ce qui permet de maintenir, compte tenu de la sortie de M. Bory, de maintenir l'équilibre des différents collèges. Donc, d'accord, vous avez bien noté ça ? Hein, on enlève M. Bory et on met un architecte proposé par l'Ordre au lieu de deux. Voilà. Et donc, les membres de la CAO, les membres de la CAO sont membres titulaires, comme bien sûr, évidemment. Oui ?
Juste pour ma culture personnelle, c'est pour un problème réglementaire que M. Bory ne peut pas être remplacé par un autre membre du Conseil ou c'est une organisation plus simple ?
En tant qu'élu, il ne peut pas.
Parce qu'il est élu. Donc il ne peut pas être remplacé.
Parce qu'il est élu, voilà. Donc vous avez bien noté la modification des questions, sauf de M. Bory qui... Non, il n'a pas de questions. Il accepte son sort. Pas d'opposition ni d'abstention. Merci. Allez, on passe à la suivante. C'est la convention d'objectifs avec Folklore du Monde.
Il s'agit d'approuver une convention pluriannuelle avec l'association Arts et Cultures Traditionnelles du Monde pour l'organisation des festivals Folklore du Monde 2017, 2018, 2019. Bon, ce rendez-vous est connu de tous les Malouins au mois de juillet. C'est une manifestation populaire qui rencontre un vif succès, qui se déploie dans toute la ville, avec des cours de danse, avec un concours pour les gratuits proposé, enfin un spectacle de concours gratuit proposé aux anciens, avec des animations dans les quartiers, avec des soirées cabaret, des soirées de gala au panier fleuri. Et puis ce défilé populaire du dimanche matin et le triomphe au Parc des Chênes. Donc tout le monde connaît un petit peu la formule qui, dans le succès, ne se dément pas. Cette année, l'édition, d'ailleurs, je vous précise, aura lieu du 11 au 16 juillet pour des histoires de congés scolaires. On est obligé de décaler un tout petit peu. Donc cette convention est une convention triennale avec une contribution de la ville par une subvention de 170 000 euros par an, qui correspond à 63% du montant annuel, et puis par la mise à disposition d'un local rue Charles Le Goffic, et enfin une prise en charge du démontage du parquet du panier fleuri, qui est une opération tous les ans assez coûteuse, mais qui profite à plusieurs événements consécutifs. D'accord.
Vous avez noté, c'est 11 au 17 juillet, c'est voilà. Une date un petit peu différente. Voilà. Et il y a des questions ? Pas d'opposition ni d'abstention, j'imagine. Tout le monde est d'accord pour Folklore du Monde. Alors, on passe à la MIP, la Maison internationale des poètes et écrivains.
Donc, depuis 1990, la ville de Saint-Malo soutient l'association Maison internationale des poètes et des écrivains. La convention annuelle actuelle arrive à son échéance en avril 2017. La Maison des poètes et des écrivains, dans cette convention... vise à remplir un certain nombre d'objectifs qui concernent évidemment des activités en rapport avec la littérature, la poésie, mais aussi en rapport avec la culture bretonne, donc en rapport avec les traditions orales, la lecture de contes, et puis enfin la mise en relation des artistes régionaux avec des artistes internationaux, et puis des actions en faveur des jeunes publics. Donc il vous est proposé de renouveler cette convention pour une durée de 1 an, avec une contribution financière de la ville de 61 500 euros, soit 75% du prévisionnel. la mise à disposition de la maison rue du Pélicot, valorisée à hauteur de 11 600 euros, et puis une participation de 75% au fluide et à des frais de reprographie, voilà, avec un versement de la subvention en 6 fois.
Voilà, l'objectif, c'est de descendre au-dessous des 80% de subventions aux associations. Ça, il y a un petit sujet. On avait dépassé dans les exercices précédents, dans les contrats, les conventions précédentes, cette limite. Ça, c'est... Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas d'opposition ni d'abstention. Merci. Il y a deux billetteries culturelles centralisées. Vous savez, c'est classique. Ouais. Avec Étonnant Voyageur et l'association Rock Tympan. Je passe vite, monsieur. Vous connaissez ces délibérations où on prend la charge de la billetterie au niveau de la grande passerelle.
Je peux dire juste un petit coup de pub.
J'essaye de passer en force.
Un petit coup de pub pour Étonnant Voyageur, quand même. Je vous rappelle les dates, 3, 4, 5 juin, le week-end de la Pentecôte. Avec une programmation qui paraît assez alléchante et qui notamment traitera d'un sujet qui nous concerne tous, c'est celui de la démocratie et de son devenir. Voilà.
Vous pourriez donner la date de la route du Rock aussi, tant qu'on y est.
J'ai la date. 17 au 20 août. Pas,
il en faut pour.
Et classique au large du 28 au 30 avril. 28 au 1er.
Voilà. Bon, il n'y a pas d'opposition sur ces deux délibérations ni d'abstention. Merci. Le règlement intérieur du pôle animation de quartier, Monsieur Coudray.
Oui, merci Monsieur le maire. Cette délibération correspond à une mise à jour. Hein. Les points suivants seront inscrits au règlement intérieur. Donc petit A, pôle animation de quartier, puisque l'acronyme SAJ commençait à ne plus avoir de signification, et c'est plus lisible pour la population. Petit B sont les conditions afin de clarifier les tranches horaires. Il existe des créneaux où l'on limite aux jeunes domiciliés principalement et scolarisés à Saint-Malo, mais je rappelle qu'il y a toujours des créneaux disponibles et ouverts à tous les jeunes. Et enfin C, c'est un point de réglementation. Voilà en quoi correspond cette délibération, Monsieur le maire.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas d'opposition ni d'abstention. Merci. On passe à la suivante, l'attribution d'une bourse à un jeune qui va aller à Londres, je crois.
Alors oui, donc c'est une délibération en faveur de notre politique de la jeunesse, la formation, l'emploi. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le programme Pélican, il s'agit d'une action pour envoyer des jeunes bretons de 18 à 30 ans travailler à Londres. Les critères pour le programme Pélican, c'est 1, ouvert à tous, pas de niveau linguistique, 2, il va y avoir 2 semaines de formation à Dinard avec un remise à niveau et préparation au départ. 3, une expérimentation professionnelle à Londres de au moins 6 mois avec le soutien et le suivi des équipes sur place et le financement, prise en charge de la formation et de l'hébergement ainsi que le placement et l'hébergement le premier mois de 6 mois de travail à Londres. Les coûts de transport, je le rappelle, sont à la charge du participant. Ces emplois sont tournés vers l'hôtellerie, la restauration, la vente. Et donc le BICH a la vocation à la mobilité internationale et à l'emploi, donc s'inscrit totalement dans cette démarche. Et nous souhaitions encourager un jeune malouin, puisque ce n'est pas réservé à des malouins, c'est réservé à des bretons. Et il nous paraissait important qu'un jeune malouin participe. Il y a 3 sessions par an. Ce programme envoie environ 60 jeunes bretons. Et donc nous voulons envoyer au minimum un jeune malouin cette année. Donc la présélection du BIJ, donc j'encourage tous ceux qui connaissent des jeunes qui s'inscrivent, qui sont malouins, qui ont entre 18 et 30 ans, qui ont un objectif de travail dans l'hôtellerie, la restauration, la vente, qui ont aux mains des économies. Alors il y a un problème un petit peu économique puisqu'il faut quand même avoir mis un peu d'argent de côté. Et de renvoyer les jeunes pour aller retirer un dossier au BIJ que l'on transmettra au CEI. Et afin de valider le dossier, nous solliciterons les membres volontaires de la commission numéro 5 pour participer à la sélection des présélectionnés du BIJ. Et donc je sollicite une mise au budget, monsieur le maire, pour 2 300 euros pour 2017.
Merci, monsieur Coudray. Est-ce qu'il y a des questions? Personne ne s'oppose? Tout le monde est d'accord, même pour Londres, compte tenu des circonstances. Non, il faut... très bien. Et merci, pas d'opposition ni d'abstention. Voilà, c'est bien. On continue, Madame Levillain. Alors, on va nous parler de cette magnifique association qui s'appelle Unité d'accueil médico-judiciaire, dont vous connaissez sûrement l'existence et le rôle extrêmement important. À vous, Madame Levillain.
Monsieur le maire, donc c'est une délibération pour l'attribution d'une subvention à caractère exceptionnel pour l'unité d'accueil médico-judiciaire qui est donc à sa 10e année d'existence sur la commune. Dispositif que je vais rappeler rapidement, c'est pour accueillir des enfants dans de bonnes conditions et en tout cas en respectant le recueil de la parole de l'enfant dans des cas de violence, avec une association à la fois des enquêteurs, mais des magistrats, des médecins et des psychologues et travailleurs sociaux qui peuvent être autour d'eux. Donc dans le cadre du 10e anniversaire donc, de l'UAMJ sur le territoire, ils ont demandé à 4 étudiants en master 1 de criminologie et victimologie de Rennes de travailler sur une enquête, une recherche clinique sur les auteurs et victimes d'agressions sexuelles. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre les dossiers traités pendant 10 ans à l'UAMJ pour voir l'impact des actions de l'UAMJ, justement, entre les délais et travailler aussi sur la récidive. Donc, dans ce cadre, ils nous ont sollicité pour demander une subvention de 2000 euros pour aider ces 4 étudiants dans leur travail, dans leur recherche. Donc, je vous propose d'accepter cette subvention.
Oui, ça m'étonnerait que ça fasse beaucoup de difficultés, mais je vais en profiter quand même pour saluer là aussi le travail de cette équipe qui suit les enfants et du docteur Morillon en particulier, qui est une personnalité extrêmement intéressante, passionnée et extrêmement compétente, vraiment. Je vous incite fortement à faire l'unanimité sur cette délibération. Pas s'il y a des demandes de prise de parole, non. Personne ne s'oppose, ni s'abstient. Merci. Le contrat de ville, Madame Levillain.
Oui, le contrat de ville qui continue, donc contrat de ville 2015-2020. Donc on reviendra régulièrement puisqu'il met en place des comités de financeurs avec 2 sessions chaque année. En 2016, c'était pareil, 2 sessions pour permettre aux associations de déposer leurs dossiers. La première, cette année, s'est terminée le 10 janvier. La deuxième se terminera le 12 avril. Donc ça permet aux associations de déposer leurs dossiers de candidature sur des actions dans le cadre du contrat de ville. Donc à chaque fois se réunit un comité de financeurs qui réunit la ville, le conseil départemental et l'État, bien sûr, pour permettre de répartir les crédits par rapport à ces actions et évaluer les actions proposées. L'enveloppe financière de la ville, puisque c'est le sujet aujourd'hui, est reconduite à hauteur de 86 000 euros. Qui correspondent aux 85 000 euros qu'on avait l'année dernière, plus 1 000 euros pour le Conseil citoyen, pour leur budget propre. Cette année, nous avons eu 20 dossiers portés par 14 porteurs de projets différents. 16 projets constituaient un renouvellement, donc on avait 4 nouveaux dossiers, projets. Nous avons 3 nouveaux porteurs de projets, ce qui était intéressant aussi, qui rentraient dans le contrat de ville pour la première fois. Dans les tableaux que vous avez avec cette délibération, vous allez pouvoir suivre les thématiques et voir la répartition des crédits. Donc pour cette session, le comité de financeurs a décidé de soutenir 14 actions sur 20, de reporter 4 actions à la seconde session. C'est généralement des demandes d'informations complémentaires ou des demandes de rapprochement avec des structures existantes pour compléter le dossier et de refuser 2 dossiers. Sur les 4 portés, en l'occurrence, il y avait 3 dossiers qui étaient des nouveaux porteurs de projets. Donc ils ont besoin de nous dans ces cas-là pour comprendre et pour améliorer encore plus leur projet. La ville, pour sa part, s'est engagée à financer 12 projets à hauteur de 26 730 euros. Pour mémoire, les subventions, là sur ce comité de financeurs, les subventions totales allouées sont de 87 267 euros, donc les 26 730 euros de la ville, 26 217 € du département et 34 320 euros de l'État. On fait un suivi précis de toutes les actions mises en place dans le contrat de ville et surtout de l'adéquation entre le diagnostic qu'on avait au départ pour voir dans quelle rubrique, dans quelle thématique nous avons des manques. Qu'on en a certains, donc on les développe et on les travaille avec les associations.
Merci Madame Levillain. C'est beaucoup d'énergie et de travail là, le contrat de ville, mais il y a des enjeux derrière que vous connaissez avec les financements qu'on va essayer de capter au mieux auprès de l'État, la région, le département sur les rénovations du quartier des provinces, pas des provinces, il ne faut pas l'appeler des provinces, il faut l'appeler Alsace-Poitou, hein, sinon on se fait tenser. Alsace-Poitou et donc l'Étrier, le nord de la Découverte. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas d'opposition, d'abstention non plus. Merci. Madame Lombardi, attends, on va rentrer en phase. Ça va nous coûter cher au budget de la ville, là, toutes ces élections en cascade. Hein. 115 000 euros. Voilà. Ouais. Total de toutes. 115 000 euros uniquement pour les présidentielles.
Les deux scrutins. Enfin, non, les deux élections, les quatre scrutins.
Pour les quatre scrutins, 115 000. Ouais. Voilà. Donc, on a été amené à codifier les conditions de rémunération des personnels des agents municipaux qui interviennent. Madame Lombardi.
Oui, merci, monsieur le maire. Donc, la délibération concerne donc les modes de calcul et la réglementation qui s'attachent donc à l'indemnisation pour les travaux électoraux de tous les agents auxquels nous faisons appel, donc aussi bien les titulaires A, B et C que nos contractuels que nous sollicitons ces jours-là pour tenir les postes de secrétaire de bureau de vote, de secrétaire de lieu de vote ou d'assesseur. Donc voilà, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le versement de ces indemnités.
Voilà, qui a des questions? Personne ne s'oppose non plus, ni s'abstient. Merci. Le SPANC. Ah, on a parlé beaucoup dans la presse, hein, le SPANC.
Voilà, donc à vous.
Le syndicat unique du service public d'assainissement non collectif, vous savez. On a parlé dans la presse ces derniers temps des difficultés qu'a ceci vu. Donc, nous allons l'aider, Madame Marguerite.
Voilà. Et nous allons l'aider en mettant à la disposition notre ingénieur territorial principal, donc qui est en charge de l'assainissement à la ville de Saint-Malo, et qui, jusqu'au 31 décembre 2017, va travailler donc pour ce CIVU à hauteur de 3h30 par semaine, jusqu'à donc au 1er janvier l'année prochaine, où cette compétence basculera à l'agglomération. Mais en attendant, ils ont besoin donc de l'expertise de notre responsable, voilà. Malouin.
On va assurer la soudure, si je puis dire, entre maintenant et le 1er janvier 2018, puisque remontée de compétences, assainissement à l'aglo. Donc du coup, ça emporte toutes les formes d'assainissement. Mais là, en attendant, ils sont un peu dans la difficulté. On ne va pas utiliser les mots qui ne conviennent pas. Donc on va les aider. Pas d'opposition là-dessus, ni d'abstention? Donc, il s'agit de M. Fontaine, pour situer l'ingénieur que vous connaissez. Alors ensuite, le tableau des emplois permanents, il faut le modifier pour remplacer Madame la directrice de la médiathèque.
Donc il y a deux. On va modifier de deux façons le tableau des effectifs. Le premier, c'est dans le cadre du remplacement de la directrice de la médiathèque. Nous avions lancé un appel à candidature auprès des bibliothécaires et conservateurs des bibliothèques. Il s'avère que le candidat retenu est attaché territorial, bien qu'au début de sa carrière, il était bibliothécaire. Et donc, on modifie le tableau des effectifs en ce sens, puisque à un grade correspond la fonction occupée. Donc là, on transforme le poste de bibliothécaire ou conservateur en poste d'attaché territorial. Et la deuxième modification que nous apportons concerne la direction des ressources humaines, puisque la directrice a fait part de son souhait d'être mise en disponibilité pour convenance personnelle à partir du mois de septembre. Donc nous allons recruter un nouveau DRH Et pour que nous ayons le panel le plus large possible de candidats, on ouvre le poste aussi bien jusqu'aux administrateurs et même administrateurs hors classe. Donc l'actuel DRH était attaché principal, donc on modifie son poste en administrateur et administrateur hors classe. On fait deux postes, on crée deux postes.
Et en fonction du candidat retenu, mécanique absolument. D'une complexité auquel j'arrive pas à m'habituer.
Mais voilà.
Et c'est comme ça.
En fonction du candidat retenu, on supprimera l'un des deux. Voilà.
Voilà. Question là. Non. Pas d'opposition ni d'abstention. Merci. Et puis on va en arriver à la délibération la plus importante. On l'a gardée pour la fin. C'est Monsieur Huchette qui va rapporter, puisque ça y est, enfin, nous allons nous rapprocher d'une ville qui nous est chère, dans une entente de jumelage. Monsieur, oui, qui est-ce qui a gardé Michel ?
Pardon.
Voilà.
Merci, Monsieur le maire. Effectivement, il faut qu'on formalise les longs fiançailles entre Saint-Malo et Gaspé, puisque les premiers liens datent de 1534, date à laquelle Jacques Cartier a traversé l'océan pour découvrir Gaspé. Donc, le maire de Gaspé que vous avez rencontré mois de juin dernier, je crois.
Et à Saint-Malo aussi, il est venu.
Oui, et qui était venu à Saint-Malo, a formalisé la demande d'un mariage sous la forme d'un jumelage, qui est la procédure habituelle, même si cette procédure a un peu changé, puisque maintenant on parle également de coopération décentralisée. Alors, en quoi va consister ce jumelage ? Eh bien, à mettre ensemble un certain nombre de choses que nous faisons conjointement, enfin séparément, mais qui correspondent en matière de tourisme, en matière de recherche et d'innovation, en matière commerciale également. Et pour suivre ce jumelage, on va créer un comité, selon la réglementation, un comité qui sera un comité de suivi auquel participeront toutes les associations de Saint-Malo qui suivent déjà ces questions, parce qu'il y a trois associations en particulier qui sont intéressées, tout le monde les connaît, c'est l'association Saint-Malo-Québec, l'association des amis quartiers et le réseau Situ les ports du monde. Alors c'est pour ça qu'on a sollicité tous les groupes de ce conseil municipal pour qu'ils nous désignent chacun à la fois les représentants de ces associations, mais aussi pour les groupes, alors plusieurs dans notre groupe, forcément, proportionnellement, vous-même, votre serviteur, Monsieur Coudray, Monsieur Boris, Madame Evelyne Renoux. Et puis pour les deux autres groupes, après avoir consulté les coordinateurs de chaque groupe, ont été désignés M. Lefebvre et Mme Le Talec. Voilà, donc parmi les personnalités extérieures, Mme Christine Hervé, qui n'interviendra pas en tant qu'élu, mais comme présidente de l'association France-Québec, et M. Foucron et M. Loïc Frémont. Cette signature sera...
M. Foucron, c'est en tant que l'association... Alors, je sais comment elle s'appelle. Là.
Des amis de quartier. Pas
des amis de quartier,
et
voilà.
Et pas Jacques Cartier.
Et Frémont au titre des ports du monde.
Si tous les ports du monde.
D'accord.
Et ce mariage eh bien, sera célébré sous une forme qui reste à déterminer entre vous et monsieur le maire de Gaspé, monsieur Côté, puisque vous allez vous entretenir très prochainement à ce sujet. Ouais. Voilà.
Merci. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de voir les deux croix de Gaspé, celle que vous connaissez ici, à la cale de Solidor, et puis celle qui est à l'autre extrémité, qui est beaucoup plus imposante d'ailleurs. Une très très grande croix de granit là, qui est posée sur le bord de la rivière de Gaspé. Donc il y a quand même des liens extrêmement forts qui datent presque 500 ans. Je voulais avoir, bien sûr, vos observations, vos remarques, vos questions, et puis ensuite que nous passions à un vote qui, je l'espère, sera unanime aussi. Mais on va d'abord passer aux questions. Comment ?
C'est presque la dictature,
c'est
marqué « approuve à l'unanimité ».
C'est écrit. On va mettre ça carrément sur les délibérations maintenant. On va mettre tout de
non,
suite.
Mais c'est parce que.
Voilà, ça en gagnera du temps.
C'est parce qu'il y a donc, toujours unanimité quand voilà. Il s'agit de problèmes européens ou de problèmes.
Monsieur Lefebvre, nous avons ajouté le B qui manquait. Désolé. les excuses, les plus plates excuses de nous tous, de ce côté-ci. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, écoutez, on va passer au vote. Il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. L'unanimité, voilà, c'est fait. Daniel Côté, le maire de Gaspé, est un jeune maire de 35 ans, 40 ans, quelque chose comme ça, qui est fort sympathique. Alors, je ne sais pas d'où il en est de son mandat, si c'est... je pense que c'est... Comment ? Novembre, c'est ça. C'est en novembre que ça se passe. Merci. Ben, je crois que nous avons épuisé l'ordre du jour dans un délai convenable, avec un débat qui s'est quand même qui a eu le temps de s'instaurer. Donc je vous félicite pour l'efficacité de vos interventions. On a encore, peut-être encore un peu d'efficacité à gagner, c'est possible, légèrement, mais on progresse beaucoup. Voilà. Merci à tous. Oui.